À tous, vous écoutez Radio Courtoisie, les 18h.
La radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct, mercredi 12 janvier 2005, de 18 à 21h, en différé jeudi 13, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir.
Résistons toujours, ça va, ça va.
Bon, c'est bien. Nos invités de ce soir, alors dans le désordre et pas par ordre de préséance, Marc Filterman, écrivain, auteur des Armes de l'Ombre, qui est paru aux éditions Carnot, avec qui nous allons parler du raz-de-marée sismique et également des incidents climatiques qui agitent l'Europe en ce moment. Et d'autres sujets fort intéressants. Jean-Paul Argoire, prêtre, c'est toujours valable.
Oui, religieux.
Bon. Un religieux en plus. Directeur du village de Riomont. Bonsoir mon père.
Bonsoir Serge.
Ça va? Vous avez un beau sourire. Vous êtes
même... Oui, quand je vous vois en plus, c'est un petit peu le paradis. Hein.
Ça m'avait fait peur pendant un moment. Il était malade, le malheureux, mais ça va mieux là. Bon,
je remonte.
C'est bien.
Grâce aux prières sûrement des gens.
Je pense que ça doit servir à quelque chose. Ouais. Louis de Guy, journaliste, qui va nous donner
présent,
de
oui.
La bande dessinée.
Bande dessinée et dessin de presse.
Et dessin de presse. C'est pour ça, vous voyez, que, comme c'est varié cette émission, c'est crépitant de...
Hein, de variété.
De variété, voilà. Merci de m'avoir aidé, c'est bien.
De variété,
très variée. Donc. Ensuite, M. Wouters, secrétaire général, ou je ne sais quoi, d'ailleurs, parce que moi, alors les titres, qui s'occupe de l'association Laissez-les vivre, et qui viendra nous parler d'une grande manifestation qui se prépare... Pour la défense de la vie, bien entendu, il est inutile de préciser que cette manifestation aura lieu le même jour que 12 autres manifestations tout aussi importantes, puisque dans la famille, on est des organisateurs nés de manifestations. On dirait qu'il y a un dimanche par an. Tout le monde s'y jette. Bon. Nous recevrons ensuite l'abbé Grégoire Cellier, prêtre-éditeur, avec qui nous parlerons du dernier numéro de Fidélitaire, être un chrétien en politique, ou est-ce qu'un chrétien peut faire... Ça tourne autour de ça. Est-ce qu'un chrétien peut faire de la politique? Je crois pas, moi, personnellement. Je crois que c'est tellement dégoûtant. Et puis l'inauguration de son église, Sainte-Thérèse.
À Coulogne.
D'ailleurs, c'est fini, c'est bientôt.
Compiègne, ça y est.
Compiègne.
Compiègne,
c'est
oui.
Ça,
oui. Puis nous recevons Christophe Mailleux, secrétaire général des Cercles de la Tradition, qui nous parlera du congrès sur la laïcité. Et puis, sauf erreur de ma part, c'est tout. J'ai peut-être oublié quelqu'un, on verra bien. On aura le marquis, bien entendu, le marquis qui nous appellera des confins des antipodes. Enfin, c'est peut-être un peu exagéré. Il est loin, en tout cas. Et puis, avant tout, j'ai au téléphone l'immense bonheur de recevoir Patrick Goffman. Patrick Goffman, bonsoir.
Bonsoir, Serge Debecker.
Allez, je chausse le casque, parce que... Voilà.
Je perçois un peu d'ironie dans votre...
Non, pas du tout. C'est vrai que ça me fait plaisir, mon cher Patrick.
Vous voyez, moi, que je mesure 1m88.
1m88, bel homme.
Et que l'immensité est surtout là.
Voilà. Mesdames, vous êtes prévenus, Patrick Goffman, 1m88, 80 kilos de
hauteur, hein.
Bonne viande fraîche non désossée.
Voilà. Je vous salue, Serge Debecker, et bien sûr vos invités et vos auditeurs innombrables. Et je vous dis tout de suite que j'ai sous les yeux le numéro 339.
Oui, alors je vous ai demandé de parler ce soir parce que c'est une grande première. Vous avez signé l'éditorial du Libre Journal.
C'est la deuxième fois, vous êtes oublieux. J'avais éditorialisé une fois sur l'affaire Trintignant.
Ah, exact.
Avec un dessin absolument odieux.
Oui.
Oui, j'éditorialise sous le titre « En avant », ce sont les vœux que je formule pour notre pays. Pour
c'est quand même le vieux trotskiste qui ressort, là.
Oui, voilà. On a décidé, au lieu de dire comme d'habitude « Joyeux Noël quand même », on a décidé d'être optimiste et donc on a confié l'éditorial au vieux trotskiste qui dit « En avant », c'est tout ce qu'il sait dire et répéter. Et donc l'éditorial... Nos vœux pour la France, pour notre courant de pensée et pour notre petit journal sont optimistes. À la une, un panneau, j'en suis encore étonné, donc à la une du numéro 339 du Libre Journal, un panneau qui est en place depuis longtemps, visiblement, évacuation route pour les tsunamis, qui sont, contrairement à ce qu'on nous raconte dans les gros médias, des phénomènes réguliers. Il y en a une dizaine dans le siècle écoulé. Et il arrive qu'on prenne les devants, il arrive que l'alerte soit donnée, comme elle a été donnée et non transmise pour le dernier raz-de-marée en Asie du Sud. Ce n'est qu'un des multiples scandales que les auditeurs mercredi dernier vous ont entendu évoquer, Serge, et sur lesquels vous revenez longuement sur 3 pages extrêmement denses dans le Libre Journal. Je poursuis... je vais faire un survol rapide de presque toutes les rubriques du sans m'y attarder du journal. Ordination à Saint-Nicolas du Chardonnay le 29 décembre dernier, notre ami Michel Delire y consacre toute une page et ça en vaut la peine. François Brignot, une signature historique, continue son feuilleton, c'est le 17e épisode sur les présidents qu'il a connus au cours de sa vie. Il en arrive au 10 mai 40, et c'est la guerre pas drôle qui commence. Notre ami Eric Arzel, un de nos grands reporters, hein, on avait un reportage aux États-Unis récemment, le Marquis nous prépare un reportage en Chine et un reportage en Égypte, vous l'avez dit à l'instant. Et bien en attendant, Eric Arzel nous rapporte un reportage exclusif aux confins du Darfour. Une pleine page de revue de presse, un article de Jean-Pierre Perroncet-Lugo, l'ancien grand reporter du Monde que vous receviez récemment, au sujet de la capitulation linguistique du fait qu'on écrive Maastricht au lieu de Maastricht comme on l'a fait pendant des siècles. Notre camarade Apollinaire apporte également sa pierre au débat sur l'entrée de la Turquie, ainsi que notre camarade Répine, le peintre russe le plus connu, certainement.
On ne se touche pas du coude quand même, on fait un papier signé à l'Apollinaire, illustré par Répine. Il n'y a pas beaucoup de journaux qui peuvent se permettre ça.
Je crois pas. Sur une seule page, on a le peintre Répine, le poète Apollinaire et l'ancien correspondant du Monde, Pérencel Hugo.
Le poème d'Apollinaire est magnifique d'ailleurs. La réponse des Cosaques à Porog au sultan de Constantinople, c'est le plus beau bras d'honneur poétique qu'on puisse envoyer.
Voilà, et pour ceux qui ne le savaient pas, on découvre que ce n'est pas d'aujourd'hui que la Turquie veut pénétrer brutalement l'Europe. En face, on a une lettre ouverte d'Henri Roque à Henri Rousseau, qui reçoit décidément beaucoup de courriers. Henri Rousseau, c'est l'auteur du rapport sur l'université de Lyon 3, qui a occasionné des ennuis dont vous avez déjà beaucoup parlé et dont nous reparlerons à notre ami Gollnisch à Lyon. Un article très intéressant sur l'apprentissage. Marie-Claude Monchot nous raconte son Noël, et c'est toujours Marie-Claude Monchot est une grande dame de l'édition, de l'illustration, qui a fait une carrière internationale magnifique, il faut le rappeler de temps en temps. Et elle nous envoie le récit de son Noël à La Rochelle et nous rendons compte de son nouveau livre sur Louis XIV qui vient de paraître aux éditions Teki. Nous commentons les événements en Ukraine. Notre correspondant permanent en Amérique latine, Nicolas Bonal, nous envoie un élément, le dernier épisode de son feuilleton en Équateur cette fois. Nous avons une double page sur l'affaire Kurt Waldheim, qui est bien intéressant.
De Léon Arnoux, un papier très très intéressant de Léon Arnoux.
Une belle double page avec un portrait extraordinaire, une caricature extraordinaire de Kurt Waldheim. Bon, on le défend d'une main, une caricature de l'autre. La caricature est fantastique, elle est très bien sortie à l'impression. Une page livre, l'agent secret du Vatican, c'est un massacre auquel Eric Arzel encore lui se livre.
Pas le livre, hein, le commentaire du livre.
Oui, très très cruel. Notre rubrique musique française qui en est à son quatrième épisode, je ne sais pas si c'est elle qui a suscité l'apparition sans précédent de rubriques identiques chez certains de nos confrères, mais en tout cas c'est sans doute qu'elle est bonne si elle est suivie de si près imitée. L'abbé Guimary poursuit lui un feuilleton, quatrième épisode sur Israël et nous, les rapports entre les catholiques et le judaïsme, et le plus attendu, notre marquis nous révèle que Guy Carlier enfle et que BHL fuit.
Se dégonfle.
Ouais. Avec toujours une dent extrêmement dure, mais un style très spirituel, très très amusant. Voilà. J'ai été un peu long cette fois parce que j'ai voulu, à votre imitation, vous l'avez fait récemment et par téléphone également, et essayer d'être un peu complet, donner une idée un peu complète des 24 pages que nous publions trois fois par mois. Alors, j'ai une triste nouvelle pour les milliers de nos amis qui nous suivent sur Internet gratuitement. Le site est suspendu, Libre Journal, francecourtoise.info est suspendu, donc il va falloir qu'ils s'abonnent.
Mais il est suspendu pour des raisons sordidement financières.
Parce que, j'hésitais à le dire.
Mais non, il faut le dire, c'est que la consultation du journal sur Internet est une consultation gratuite, mais la publication du journal sur Internet n'est pas gratuite du tout. Et il y a un moment où on peut plus payer quand quelque chose qui n'est pas payé en retour. Et on a été obligé de suspendre cette publication pour l'instant, dans l'attente d'une solution qui nous permettrait de la reprendre sans que ça porte un coup trop sévère à nos finances.
Et dans l'attente de l'arrivée de nouveaux bataillons d'abonnés qui vont donc envoyer un chèque de 110 euros pour un an, ou s'ils veulent juste un spécimen comme ce numéro 339, ils enverront seulement 5 euros en timbre.
En timbre, parce que la gestion, on en est à parler de choses sordides, mais la gestion des chèques de 5 euros, ça finit par devenir incontrôlable. C'est un travail énorme, et donc il vaut mieux nous envoyer des timbres, c'est beaucoup plus simple comme ça.
Alors, un carnet
et en
timbre.
Plus, c'est en cachette de points carrés.
Un carnet de timbres, donc, pour un spécimen comme ce numéro 339, 110 euros pour un an, à l'ordre de SDB, 4 places Franz Liszt, 75-010, Paris.
Merci, mon cher Patrick.
Merci, Serge. À bientôt.
À bientôt. Voilà. Et bien comme ça, vous ne pouvez pas dire que vous savez pas ce qu'il y a dans le journal, puisque vous ne pouvez plus lire bande de radins dans, sur Internet. C'est à vous que je m'adresse aussi.
Je n'ai pas Internet.
Ah bon, c'est bien. Bien, alors, dans l'actualité, quand même, il y a des deux ou trois choses intéressantes. Mais avant, je voudrais vous donner lecture d'un petit texte qui, moi, m'a laissé littéralement pantois. Je ne ferai pas de commentaire. Je laisserai à votre discernement, chers auditeurs, le soin de mesurer l'importance des propos que je vais vous lire. C'est une recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 7 décembre 2004. Recommandation numéro 2004, trait d'union 8, qui nous dit, alors bon, vu la loi, etc., vu ceci, vu cela, vu la concierge dans l'escalier, donc, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radio autorisés ou conventionnés la recommandation suivante, blablabla. Alors écoutez bien, parce que c'est fabuleux. Je vous rappelle qu'il y a 20 ans, il y avait eu un énorme scandale médiatique parce que les journalistes de la télévision polonaise avaient présenté le journal en uniforme d'officier de réserve. Alors on avait dit qu'à l'instant, c'est la liberté de la presse en France est parfaitement préservée, etc. Alors écoutez bien ça. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radio autorisés ou conventionnés la recommandation suivante, de traiter avec la pondération et la rigueur indispensables les conflits internationaux susceptibles d'alimenter des tensions et des antagonismes au sein de la population ou d'entraîner envers certaines communautés ou certains pays des attitudes de rejet ou de xénophobie.
Voilà.
Je peux le relire. Vous croyez qu'il faut que je le relise pour que ce soit bien bien pénétré, les esprits s'imprègnent bien de ce qu'on nous demande à nous de faire. C'est-à-dire qu'on nous demande, dans notre commentaire de l'actualité, de ne rien dire qui soit susceptible de provoquer le mécontentement des populations halogènes qui sont en France. Alors, ça va devenir extrêmement compliqué, vous comprenez, parce que on va pas pouvoir émettre d'opinion, par exemple, sur l'attitude de certaines armées d'occupation à l'égard de certaines populations des pays occupés. Vous remarquez que je reste dans le vague. Hein. Bon. Si on dit, je prends un exemple, si on émet un doute sur la réalité du génocide arménien, on va avoir les Arméniens qui vont nous tomber sur le poil. Si on maintient la réalité du génocide arménien, on va voir les Turcs qui vont nous prendre par le colbac. Si on dit que au Darfour, les musulmans et les chrétiens se foutent sur la gueule, on va avoir des emmerdements avec les deux parties. Si on dit que les chrétiens ont raison, les musulmans vont nous tomber dessus. Si on dit que les musulmans n'ont pas tort, on va se faire écharper par les chrétiens. En France, bon, alors ça fait partie du jeu, on sait, ça fait des années que ça dure, mais c'est quand même la première fois qu'une institution comme le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'occupe de ce genre de choses. Or, je ne pense pas réellement que ça fasse partie des prérogatives de qui que ce soit, d'ailleurs, pas plus du Conseil supérieur de l'audiovisuel que du président de la République, de décider de ce dont on doit parler ou de ce dont on peut parler à la radio ou à la télévision ou dans les journaux, et surtout de la façon dont on peut ou dont on doit en parler. Quand j'ai entendu l'autre jour Chirac dire que il fallait que les journaux, que les journalistes arrêtent d'aller en Irak, j'ai failli tomber de mon siège. Ça ne le regarde pas. C'est pas ses oignons, de quoi je me mêle. Tout ce qu'il peut dire, et moi à sa place c'est ce que j'aurais fait depuis longtemps, c'est que la presse étant parfaitement libre, elle doit assumer cette liberté. Et que si un journaliste part en Irak et se fait enlever par des voyous, des bandits, des terroristes, des résistants, vous appelez ça comme vous voulez, eh bien c'est à lui d'assumer ce risque, et c'est à sa rédaction de se démerder, si j'ose dire, pour le tirer d'affaire. L'État n'a pas à prendre en charge ce genre d'affaires. On voit d'ailleurs le résultat avec l'affaire Julia. L'affaire Julia est en train de tourner en jus de boudin grotesque. Vous allez voir que ça va être le scandale de 2005. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans l'affaire Julia? Julia, qui a des relations avec les pays africains par l'intermédiaire de certains de ses collaborateurs depuis très longtemps, puisque ça remonte à au moins 20 ou 30 ans, a utilisé ses relations pour intervenir, pour expliquer à Chirac qu'il pouvait intervenir d'une façon utile dans l'affaire des otages Malbruno et Cheneau. Chirac a dit oui. Et il lui a fait le coup du Mission Impossible pour les auditeurs qui ont regardé la télévision quand ils étaient jeunes comme moi. Hein, si vous vous faites piquer, le département n'ira avoir toute relation. Donc là, si vous faites, allez-y Julia, mais si vous faites prendre, ouais, le président de la République et là, n'ira avoir quelque relation que ce soit avec vous. Julia y est allé. Il a failli réussir son coup. C'est Barnier qui a fait foirer le coup, d'une façon probablement avec un mélange de maladresse et de malveillance qui a été assez réussi. Et ensuite, on a fait porter le chapeau à ce malheureux Julia, que je précise que je ne le connais pas, je n'ai jamais vu de ma vie, et je pense pas que ça soit pour moi un inconvénient lourd. En tout cas, quand l'affaire a été terminée, on a vu descendre Malbruno de l'avion, et qu'a dit Malbruno ? Il a dit, on a tenté, au risque de nous faire perdre la vie, etc., de s'emparer de notre affaire, d'exploiter notre affaire, tout ça ne mérite que le mépris. Ensuite, Malbruno et Cheneau ont été chambrés pendant 2 jours par les services spéciaux, et comme par hasard, on n'a plus entendu parler de rien. Après, M. Malbruno, quand on l'a interrogé sur l'affaire Julien, il a dit, oh, c'est bien compliqué, parlons d'autre chose, voilà. Cette histoire est ce qu'on appelle, en langage paysan, un bâton de poulailler. C'est-à-dire, quel que soit le bout par lequel vous l'estampez, vous êtes absolument sûr de vous emmerder les mains. Bon, vous embrenez les mains. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ça ? Julia, lui, il est très fort, parce qu'évidemment, il a fait des rapports au président de la République. Il a gardé les doubles. Alors maintenant, on voit que son bureau à l'Assemblée a été cambriolé. On voit que sa permanence à Fontainebleau, ou je ne sais où, à Fontainebleau, a été cambriolée. Il y a des mecs des services, naturellement, comme toujours, c'est les bras cassés, qui arrivent, ils cherchent des petits papiers, parce qu'ils pensent, ces gens-là, avec le petit poids qui est à la place du cerveau, que Julia, quand il a une conversation compromettante avec le président de la République, il en fait une ampliation en 42 000 exemplaires, qu'il cache dans son cabinet personnel, dans son bureau, dans sa permanence, et probablement qu'il va déposer à la bibliothèque national au service des... Non, ben, enfin, vraiment, tout ça doit être enterré dans un fond de jardin du petit-neveu de la concierge, de la grand-mère, de la sœur de l'oncle Adolphe ou de l'oncle Jules. On retrouvera jamais. On retrouvera le jour où Julia aura décidé qu'il faut le retrouver et qu'il va falloir que Chirac arrête de le laisser tartiner de ouigres. Voilà ce qui va se passer. Donc, ce genre de choses... Quand l'État veut s'occuper de ces questions-là, il faut qu'il le fasse d'une façon autoritaire. La seule façon de gérer la question des journalistes otages, c'est extrêmement simple. C'est par une décision législative, par une disposition législative qui consisterait à dire, premièrement, nous sommes en guerre contre le terrorisme. Dans une guerre, il y a des lois écrites et des lois non écrites. En tout cas, il y a un principe, c'est que on applique le secret défense aux éléments de l'actualité qui peuvent porter atteinte aux intérêts nationaux. Quand des terroristes prennent en otage des journalistes, c'est évidemment pour faire chanter le pays. C'est donc pour porter atteinte aux intérêts de la France. Par conséquent, si un journaliste est pris en otage, il est fait interdiction à tous les médias, sous quelque forme que ce soit, d'évoquer le moins du monde cette situation. Il n'y aura pas un mot sur la prise d'otage, pas un mot sur le... Nous, on fait naturellement exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on met des tableaux, des portraits de 8 mètres de haut de Malbruno et Cheneau devant l'hôtel de ville. On fait des réunions de 12 000 personnes. On acclame, on pleure, on pleurniche. On fait tous les jours, sur toutes les radios et télévisions, un discours qui dit « Aujourd'hui, 276e jour de la prise d'otage. » Tout ça est très agréable pour Bruno pour Malbruno et Cheneau. Je le comprends très bien pour les otages. Ça, s'ils le savent, ce qui ne semble pas être le cas d'ailleurs en général, mais ça leur entretient le moral. Mais le problème, c'est pas d'entretenir le moral de la population journalistique en France. Le problème, c'est de défendre les intérêts nationaux. Et tant que les preneurs d'otages sauront que ça marche, ils continueront. Alors que si on leur dit une fois pour toutes, on n'en parlera pas. D'abord, vous n'aurez jamais un rond, jamais rien. Vous pourrez les tuer. Tant pis, vous n'aurez rien. Mais on agira comme les Soviétiques. Je vous rappelle qu'au Liban, quand les Soviétiques ont pris une fois 2 otages russes. Une seule fois. Ils en ont tué un. Le lendemain, le chef de la bande de preneurs d'otages recevait sa femme par la poste en plusieurs petits colis, avec une petite lettre rédigée dans sa langue qui lui disait « Cher monsieur, j'ai le plaisir de vous envoyer votre femme en plusieurs livraisons. Nous vous informons que si vous ne libérez pas ce soir le deuxième otage, c'est le reste de votre famille qu'on va vous faire parvenir par le même chemin. » Et bien le soir même, le russe était en liberté. Voilà. C'est comme ça qu'on agit quand on est un chef d'État. Autrement, on ne se présente pas aux élections. Moi, j'aurais pas le courage de faire ça, mais moi, je me présente pas à la présidence de la République. Chirac, il a voulu être président, il l'est. Maintenant, il faut qu'il assume les conséquences de ça. C'est-à-dire qu'il assume les conséquences, la responsabilité de la mort de certains Français dans une guerre qui est une guerre non déclarée.
Mais c'est une guerre révolutionnaire, c'est plus une guerre conventionnelle.
C'est une guerre révolutionnaire.
Et une guerre psychologique et révolutionnaire, comme ça s'est passé en Indochine et en Algérie et sur d'autres continents.
Alors.
Et donc, c'est pas les mêmes règles.
Exactement. Alors, si Chirac avait dit, voilà, les journalistes, vous faites ce que vous voulez, moi, ça me regarde pas, je suis pas journaliste, je suis pas directeur de journal, je suis pas chef des informations, ni rédacteur en chef, mais je vous dis, si un journaliste est enlevé sur un territoire en guerre, il n'y aura pas un mot dans la presse française parce qu'il y a une loi qui l'interdit. On fait bien des lois pour interdire la contestation des crimes contre l'humanité. On pourrait très bien faire une loi interdisant la publication d'articles mettant en cause l'intérêt national quand on est dans une situation de belligérance même cachée. Eh bien, il dirait, voilà, vous pouvez aller si vous voulez. Si vous vous faites piquer, c'est votre problème, vous vous démerderez, on ne fera rien. Mais sachez une chose, c'est qu'on ne paiera jamais une rançon, alors que là, on a payé la rançon. C'est évident qu'on a payé la rançon. Et la rançon de cette rançon, si j'ose dire, ça s'appelle madame... comment s'appelle cette jeune femme qui a été enlevée, là ?
De Libération.
La journaliste de Libération. Parce qu'évidemment, les gars, ils piquent Malbruno et Chénaud, on leur file du fric. Ils disent, oh, alors ça va, c'est le distributeur. Vous savez, c'est comme le Belge qui est devant distributeur de Coca-Cola, il met un franc, enfin un euro, le Coca-Cola sort, un deuxième euro, le Coca-Cola sort, et il y a un type derrière qui lui dit, dites, vous voulez pas dégager, je me sers un peu. Il dit, ça non, hein, tant que je gagne, je continue à jouer. Hein. Voilà. Et ben là, c'est pareil. Les preneurs d'otages, c'est, tant que je gagne, je continue à jouer. Et qui est-ce qui paye les bouteilles de coca, c'est nous. Voilà ce que je voulais dire. Et je crois que l'affaire Julia mérite que vous vous y intéressiez, chers auditeurs, parce que vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Surtout qu'il se trouve que je connais un petit peu, pas Julia, mais un de ses collaborateurs qui est mis en examen, qui s'appelle Philippe Evano, qui est un type très bien. Très très bien, quand naturellement on s'est amusé à salir, dont on s'est amusé à dire que c'est un mythomane. Alors en même temps, ça c'est fabuleux parce que voilà un garçon qui a toujours travaillé dans ces sphères. Il a eu des postes intéressants, importants, on lui a confié des responsabilités. Et là, il y a une bavure. Et les mêmes qui lui ont confié des responsabilités depuis 20 ans nous disent « Oh, de toute façon, il n'est pas fiable, c'est un type, il est mythomane et il est dangereux. » Enfin, attendez, il faudrait s'entendre. Pendant 20 ans, vous l'avez utilisé, vous lui avez donné des postes de responsabilité, secrétaire général de cela, directeur de ça, responsable de ça, et puis maintenant, vous nous dites que c'est un guignol, donc vous faites travailler des guignols. Alors, qu'est-ce que vous êtes, vous ? Ah là là. Pauvre France, vive le roi. Voilà. Ce que je voulais dire d'autre, ben non, c'est à peu près tout. Dans l'actualité, il y a d'autres choses dont on pourrait parler. De quoi pourrait-on parler ? On pourrait parler du vote de la Constitution. Alors aujourd'hui, la presse de la Constitution européenne, vous avez vu que la presse nous apprend que les députés européens ont voté aux trois quarts l'adoption de la Constitution. Alors, en sachant d'ailleurs que leur vote n'a strictement aucune importance, nous dit-on. Et alors on nous dit, vous voyez, les députés européens, ils sont pour la Constitution européenne. Je dis oui, d'ailleurs, et c'est marrant parce que les patrons de bordel, ils sont aussi pour la légalisation de la prostitution, vous voyez, c'est amusant, hein. C'est exactement pareil. Quand vous vivez de quelque chose, vous êtes pour, hein. Vous imaginez pas les députés européens dire, moi l'Europe, je suis contre. Il n'y a que les gens du Front National qui font ça. Ils n'ont pas compris tout le film. Voilà. Autre chose, c'est, comme je l'avais prévu, une des retombées immédiates des dons qui ont été faits pour l'Asie du Sud-Est, c'est que toutes les associations qui, en France, aident des gens de chez nous, eh bien, elles n'ont plus un rond. Parce que forcément, quand vous donnez... Les budgets ne sont pas extensibles à l'infini. Quand un Français a donné 100 euros pour reconstruire des hôtels de passe pour pédomanes à Phuket, la bien nommée d'ailleurs, pour ceux qui pratiquent un peu l'anglais, ils ont plus d'argent pour donner aux enfants de Riaumont ou aux orphelins d'Auteuil. Parce que c'est pas extensible.
Mais ça, Serge, c'est ce que j'entendais dans le métro. Vous savez, un de ces SDF qui vendent les journaux dans le métro, qui a tenu un discours un peu semblable. En disant, mais.
Vous voulez dire que j'étais un discours de SDF?
Non, mais il a rangé.
Mesdames et messieurs, je vais passer vers
lui. Non, mais il a rangé les gens dans le métro en disant, pour nous, il n'y aura plus rien. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'une catastrophe arrive sur Paris, qu'une bombe nous tombe sur la gueule, je cite.
Ouais, voilà.
Et personne ne réagissait.
Évidemment. Et alors, il y a encore une chose qui m'a laissé abasourdi, c'est la dernière information sur l'affaire, la disparition de la petite Estelle Mougin. On a entendu le responsable de l'enquête dire ça fait 2 ans que 10 personnes travaillent sur cette enquête à temps complet. Et nous sommes très contents, nous venons de découvrir une nouvelle piste. Alors qu'est-ce que c'était la nouvelle piste? Au bout de 2 ans, ces 10 flics qui travaillent sur l'affaire Mougin, ils ont découvert que dans un rayon de 10 kilomètres autour de Guermantes, il y avait 88 souterrains. Il aura fallu 2 ans pour s'en apercevoir. Bravo les gars, chapeau bas devant la guerre éclair. C'est quand même incroyable, qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant ce temps-là. Est-ce qu'on a quelqu'un au téléphone? On a le marquis? Allons bon, partons sur les bords du Nil. Ils sont partis, n'en parlons plus. Cher marquis, comment allez-vous?
Ben je vais bien, monsieur Beketch, et je vous entends mieux que si j'étais à Paris.
C'est incroyable, on a l'impression que vous êtes dans le studio.
Eh ben pas du tout, je regrette de ne pas y être.
Ah bon?
Je vous salue, je salue vos invités, je salue Victoria, je salue nos auditeurs.
Alors vous m'avez dit que vous vouliez, que vous étiez prêt à intervenir, je vous ai dit naturellement, depuis les pyramides, je vous ai dit bien entendu, ni l'obstacle.
Ben, très bien. Je vais en profiter avant de vous dire 2-3 mots de l'Égypte. Entre la Chine et l'Égypte, j'ai eu le temps d'ouvrir mon courrier et j'ai eu la bonne surprise d'avoir 30 exactement cartes de vœux, aussi bien d'auditeurs, de lecteurs que de collaborateurs du Libre Journal qui me présentent des vœux. Bon, ça c'est un peu formel, mais qui tous me disent surtout continuez à nous faire rire dans votre rubrique. Alors je suis très inquiet parce que c'est quand même une lourde mission que vous m'avez donnée là.
Ben moi ça m'ennuie beaucoup parce que si vous devenez plus célèbre que moi, on va finir par se fâcher. Ben, moi j'ai pas reçu 37 cartes de vœux.
C'est ma seule crainte. Alors je les remercie tous et je sais qu'ils ont dû trouver mon adresse dans l'annuaire du téléphone. Voilà. Je voudrais aussi vous dire un mot juste avant de partir. J'ai eu le temps. La tristesse de prononcer l'éloge funèbre de notre ami Torino, qui était un homme extrêmement dévoué au Front National, au président Le Pen, un abonné de la première heure, pratiquement de tous les journaux de la famille, mais avec une sympathie particulière pour le Libre Journal. Il nous a quittés, très entouré à l'église de la Trinité, voilà.
C'était un homme absolument délicieux, à la fois très cultivé, très drôle, très charmant. Vraiment, c'est une perte.
Voilà, et qui exerçait une profession tout à fait atypique, puisqu'il était président de la chambre syndicale des détectives privés.
Oui.
Alors, de quelques mots de l'Égypte, ben voilà, je retrouve une Égypte que j'aime, c'est-à-dire avec des gens doux, calmes, un temps délicieux. Malheureusement, je suis sur un bateau qui a été un peu investi par un comité d'entreprise, j'ai rien contre, mais après les duchesses en Chine, me voilà avec les mimiles sur le Nil. Bon. Alors, je sais pas ce que je préfère, mais je crois qu'au bout du compte, je préfère, moi, être un mimile au milieu des duchesses plutôt que l'inverse.
Plutôt qu'un marquis au milieu des mimiles.
Oui, voilà. Alors, je vous garantis que je suis en train de faire une moisson de brèves de comptoir dont je vous régalerai des bons retours.
Ça, je n'en doute pas. Oui. Est-ce qu'il y en a un qui a proféré l'opinion que la forme des pyramides démontrait que déjà, à l'époque de l'Antiquité, les gens travaillaient de moins en moins?
Nous ne sommes pas encore arrivés aux pyramides.
Ah bon.
Là, on y va tout doucement, tranquillement. Mais j'ai déjà entendu pas mal de choses dans les villages nubiens. Donc ce qui est un peu fâcheux, c'est l'attitude vis-à-vis du personnel. Je trouve que le fait que quelqu'un soit un peu bronzé, qu'on le tutoie immédiatement, qu'on lui tape dans le dos, c'est pas une très bonne image de marque, mais enfin, je vais
mais
pas...
Mais ça, m'accuser. C'est parce qu'ils veulent se venger de ce qu'ils font pas dans le métro à Paris.
Ben voilà, exactement. C'est exactement ce que je pense. Cela dit, ça reste un vrai bonheur d'être sur ce bateau, voilà... J'en ai profité pour rédiger le compte-rendu de mon voyage en Chine, qui couvrira, je pense, 2 numéros du Libre Journal.
Eh bien, je m'en félicite. Donc, ne nous rapportez pas de pyramides, parce qu'on n'a pas la place dans les bureaux du journal, mais rapportez-nous un beau bronzage, et puis peut-être des obélisques qu'on pourra ranger plus facilement.
j'ai déjà trouvé quelques colifichets pour Madame de Bekech.
Ah ben, elle sera contente.
Ah ben, elle est toujours dans mes pensées, vous le savez bien, même au pied des pyramides.
Est-ce que c'est vraiment le bonheur qu'on imagine de faire une croisière sur le Nil? Parce que pour moi, qui suis resté dans le film de je sais plus qui d'ailleurs, enfin avec Hercule Poirot et d'après Agatha Christie, c'est fini. C'est plus
ça. Fini. Bon. Effectivement, j'ai vu un vieux bateau en bois et en cuivre comme ceux qu'on voit dans Mort sur le Nil.
Oui.
Mais donc, si vous voulez, maintenant, c'est quand même l'encombrement. Il y a la queue ou quelques écluses. Enfin, il y a des centres. Je crois qu'il y a 400 ou 500 bateaux qui circulent sur le Nil, dans les deux sens. C'est énorme. Donc, ça n'a plus. La nuit, si on monte sur le pont, et quand ça avance tout doucement, là, on retrouve quand même. Ou très très tôt le matin. Mais dans la journée, c'est épouvantable.
Bon, donc c'est ça, il vaut mieux faire une croisière à bord des pénichettes sur le canal de Bourgogne. Oui, ben c'est ce qu'on va faire. La prochaine fois, j'irai donc faire une croisière sur le canal de Bourgogne. Et puis ça nous économisera du voyage.
Voilà. Non, mais moi, c'est parce que je suis en reportage toujours, vous savez bien.
Mais je sais bien, oui, ça nous coûte assez cher en note de frais.
N'est-ce pas? Bien. Eh bien, écoutez, Serge, je vais vous laisser reprendre le sérieux de votre émission.
Merci, Marquis.
J'en ai entendu un tout petit bout, là, en attendant. Ça avait l'air passionnant. Gardez-moi une cassette.
Promis. À bientôt.
Allez, à la fin de la semaine.
Entendu.
Au revoir. Merci. Au revoir.
Voilà, c'était un direct depuis les bords du Nil. Je signale au trésorier de l'association que c'est le marquis lui-même qui a payé la communication. Non, mais je précise parce que ça suscite toujours de vives inquiétudes, ce genre de communication. Bien, alors, Marc Ritterland, on a assez dit de bêtises pour ce soir. On va passer aux choses sérieuses. Je vous ai demandé de venir parce que vous êtes déjà venu plusieurs fois dans mon émission, enfin dans cette émission, et vous avez écrit un livre qui est un livre passionnant, qui s'appelle « Les armes de l'ombre », qui traite de tous les moyens que l'homme a inventés de tuer ses proches, ses semblables, sans passer forcément par... des canons, des fusils, des revolvers et autres pistolets, mais des moyens beaucoup plus astucieux, beaucoup moins visibles. Et la multiplication des événements à la fois sismiques et climatiques de ces dernières semaines m'a amené à vous demander de venir pour nous expliquer. Bon, je ne vais pas vous poser la question de savoir si le raz-de-marée a été provoqué par un séisme lui-même suscité par des armes secrètes, parce que je pense que aussi ferré que vous soyez sur ce sujet, vous ne pouvez pas le savoir encore, mais plutôt si ce genre de choses est envisageable, sans parler du fait en lui-même, encore que si vous voulez en parler, vous pouvez parfaitement le faire, mais en général, est-ce qu'il vous paraît vraisemblable, ça sera ma première question, de provoquer des séismes ou sous-marins ou terrestres qui soient utilisés comme armes de guerre?
Bien, déjà, pour commencer, je vais dire bonsoir aux éditeurs et puis aux personnes présentes autour de la table. Et puis mes meilleurs voeux en même temps. Alors évidemment, bon, les problèmes que vous soulevez, effectivement, ça a déjà été étudié il y a plusieurs dizaines d'années. D'ailleurs, j'en avais parlé dans la première version du livre que j'avais publié en 99. Et dedans, je spécifiais... alors dans la deuxième version du livre, c'est d'ailleurs à la page 160, où je spécifiais que les Russes, dans la décennie 70, avaient fait 32 explosions souterraines pour étudier, effectivement, et enregistrer les effets sur les plaques tectonique. Pour les tsunamis, les Américains ont aussi fait des études de leur côté parce qu'ils avaient envisagé de provoquer des tsunamis, mais ça j'en avais pas parlé dans le bouquin à l'époque parce que on était en Europe, donc nous ici on n'a pas de risque de tsunami, bien que j'aurais pu en parler. Et ils avaient étudié la possibilité de provoquer des tsunamis là aussi de la même façon, également par des bombes. Donc c'est des procédés qui ont été autant étudiés à l'Est qu'à l'Ouest. Bon, maintenant, pour ce qui est des bombes atomiques, moi, je dirais, bon, il y a effectivement, on va encore virer dans le domaine du complot, mais les bombes atomiques, moi, j'ai pas trouvé trace parce que j'ai fait des recherches là depuis quelques jours, jour et nuit d'ailleurs, et j'ai rien trouvé de probant dans ce domaine-là. Par contre, j'ai été sur les sites de géophysique, et là, je tiens quand même à préciser que depuis le début de l'année, si je prends les relevés du 5 février, en Indonésie, on trouve déjà des tremblement de l'ordre d'une magnitude 7 sur l'échelle de Richter et 7,3 sur l'échelle de Richter le 5 et 7 février. Bon, toute cette zone-là actuellement bouge. On a la plaque des Philippines, par exemple, qui veut aller vers l'est, vers l'ouest, pardon. Et puis on a la plaque indo-australienne qui, elle, veut monter vers le nord. Donc toute cette zone-là est très sismique. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'effectivement, il y a eu par le passé des explosions nucléaires, notamment sur les îles Marshall, Bikini, qui sont donc à l'est de la plaque indo-australienne, où d'ailleurs une explosion sur Bikini s'est très mal terminée, puisqu'ils pensaient faire sauter une bombe de 5 mégatonnes qui en réalité en a fait 15. Donc bon, voilà le genre de problème. Pour provoquer des tsunamis, il y a plusieurs façons de les provoquer. Effectivement, il y a les bombes atomiques. Donc ça, sur l'atoll de Mururoa, alors là c'est très intéressant parce que j'ai le rapport du Sénat, qui a fait un petit bilan notamment sur les couronnes de Muru, puisque à l'époque on faisait les explosions nucléaires à l'extérieur, le petit problème, c'est qu'on a eu des flancs qui se sont effondrés sur la couronne. C'est pour ça qu'après, à partir des années 87, on est passé aux barges à l'intérieur des lagons, parce que, je crois que c'est en 79, on a provoqué un mini tsunami, par exemple. Donc, effectivement, il y a eu des essais nucléaires. À l'heure actuelle, je crois qu'on est à 2500... c'est ça, c'était la date en 2000. En 2002, on était le 21 février 2002, donc ça c'est le Conseil supérieur de la sûreté de l'information nucléaire, compte rendu du 21 février 2002, on était à 2419 explosions nucléaires, tous pays confondus. Donc Chine, France, Inde, Pakistan, Royaume-Uni, États-Unis, URSS. Bon, il y a peut-être deux autres pays qui en ont fait, mais cela on n'en parle pas. Donc il faut quand même pas oublier que toutes ces explosions-là, on a fait d'ailleurs des rapprochements entre différents incidents, par exemple entre une bombe nucléaire qui a explosé dans le polygone du Nevada et le lendemain un tremblement de terre qui s'est déclenché dans le Tangshan en Chine, qui a provoqué 900 000 morts.
C'est la plus grande catastrophe de tous les temps.
C'était sur le 27 juin.
Du 20e siècle, en tout cas, certainement.
Voilà. C'était le 27 juin 1976. Alors, on a eu également un autre séisme, ça c'est le 4-12-88 avec l'URSS qui a testé une bombe à Semipalatinsk, et là c'est l'Arménie qui a attrapé. Et des scientifiques russes pensent que le séisme qui a dévasté l'Arménie, donc le 4-12-88, et qui a coûté la vie quand même à 40 000 personnes, ils pensent que ça a été engendré par les essais nucléaires souterrains qui ont été réalisés la semaine précédente. Et là, c'est les chercheurs russes qui le disaient à l'époque. Ils sont bien placés pour le savoir, puisque eux-mêmes, ils avaient imaginé de jouer au billard, si je puis dire, avec les plaques tectoniques. Ce que l'on sait bien moins, parce que évidemment, c'est pas le genre de choses qu'on va crier sur les toits. Bon, maintenant, il y a d'autres possibilités pour les tsunamis. Il faut pas perdre de vue qu'il y a les explosions nucléaires, effectivement. Il y a les volcans sous-marins également. Bon, il est arrivé par le passé que des îles apparaissent et disparaissent. Il y a également un autre... Alors là aussi, j'ai fait des recherches. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, le premier tremblement de terre, force 8 à 9, a eu lieu l'antécédent de Sumatra. En réalité, ce sont les îles Macquarie qui sont à mi-distance entre l'Australie et entre l'Antarctique. Et d'ailleurs, il y avait des skippers du Vendée Globe qui étaient dans cette zone-là et qui ont ressenti les grondements et les tremblements dans ce secteur-là. Or ça, c'est assez curieux parce que personne n'en a parlé. Il y a eu un blackout total. En Nouvelle-Zélande, ils ont eu les tremblements de terre aussi.
C'était à quelle époque, ça?
Ça, c'était justement le 23 décembre.
Juste avant,
parce que c'est pour ça. Bon, moi, quand je fais des recherches, quand j'écris quelque chose, je vais faire des recherches d'abord. Donc, j'ai été voir les instituts de géophysique, et puis j'ai pris des résultats, j'ai relevé les courbes, là il y a un listing de l'IPA déjà ici. Donc l'île Macquarie, C'est une île qui fait 34 km de longueur sur 5 km de large, qui est protégée parce qu'il y a des manchots royaux sur cette île-là, d'ailleurs. Et on la trouve à 1500 km au sud-est de la Tasmanie, donc la partie basse de l'Australie, et à peu près, à mi-chemin, comme je le disais, au niveau de l'Antarctique. Hein. Donc cette île-là, il y a eu de fortes vibrations dans cette zone-là, à 8,5 sur l'échelle de Richter. Vous auriez eu ça à Sydney ou à Canberra, il y avait plus les deux villes, il y en avait plus, elles étaient rasées. Hein. Donc ce tremblement de terre, on n'en a pas parlé. Nouvelle-Zélande aussi, ils ont ressenti des secousses, donc bien avant ce qui s'est passé sous Sumatra, personne n'en a absolument parlé, donc je trouve un petit peu surprenant. Alors il y a quelqu'un qui a fait remarquer, alors oui, il y a quelque chose que j'ai trouvé d'assez intéressant, c'est que déjà à la fin, alors c'est pas ce document-là, c'est qu'à la fin du mois de novembre, on avait des cétacés qui commençaient à venir s'échouer sur les côtes d'Australie, notamment de Tasmanie. Alors il y a plusieurs motifs. Quand on a des baleines ou des dauphins qui viennent s'échouer, en général, on a repéré auparavant des manœuvres militaires, parce que les sonars des sous-marins, les mammifères marins, ils ne doivent pas trop apprécier, à mon avis. C'est un peu comme nous, si on nous met quelque chose à 85 dB au niveau des oreilles. D'ailleurs, il y a des réglementations pour les boîtes de nuit pour ne pas dépasser un certain niveau sonore. Donc, les cétacés marins comme les baleines ou les dauphins qui utilisent un sonar, ça m'étonnerait qu'ils apprécient qu'on utilise des sonars ou des systèmes, par exemple, qui peuvent atteindre des 200 décibels ou 240 ou 230 décibels. Oh là là. Parce que là, on a eu également une petite information qui a été soulevée, qui a été révélée en décembre par Indépendant Media TV, où le sénateur Bob Brown du Parlement australien déclarait qu'on était en train de faire des bombardements sonores dans le détroit Bass, donc en bas de l'Australie, hein, le détroit qui sépare le fameux îlot. Voilà. Et on faisait des recherches justement pour trouver du pétrole. Alors, quand on veut sonder le sol, il y a plusieurs solutions. Effectivement, on peut provoquer des explosions à coups de dynamite, par exemple. Et là, dans ce cas-ci, ils utilisaient ce qu'on appelle des 24 air guns, donc des canons à air, ou plus précisément, apparemment, ce sont des dispositifs qui ont dû générer des infrasons qui permettent de pénétrer le plancher océanique jusqu'à 40 km de profondeur. L'inconvénient, quand vous allez en montagne, on vous dit de ne pas hurler en montagne, surtout quand vous êtes sur des pentes de neige instables, parce que les échos peuvent déstabiliser les pentes, surtout si la neige est fraîche. Donc tout risque de se casser la figure avec une onde sonore. Bon, j'aimerais bien savoir quelles études ont été faites sur ces 24 airguns. À mon avis, on a dû reprendre les recherches. D'ailleurs, j'ai ramené avec moi, j'ai un document de la DIA, des services secrets américains. C'était les services. La DIA, c'est les services secrets militaires. À l'époque, les Russes, dans les années 70, avaient fait des recherches sur les ondes sonores, précisément, jusqu'à 20 kHz. Et on s'est aperçu qu'à l'époque, ils étaient très intéressés par l'achat de sirènes françaises. Les sirènes qu'on trouve à Manivelle ou. On s'est quand même posé des questions. Les services secrets américains aussi. Et puis, on a eu un chercheur dont je ne dirai pas le nom ici, parce que en ayant le nom, ça permet de savoir ce qu'il a fait, sur quoi il a travaillé, ce qu'il a mis au point. Et il a regretté d'avoir mis au point un tel dispositif, parce que ce système qui permet de générer des infrasons peut être utilisé comme un système d'armes. Alors je ne sais pas si ça avait un rapport avec les inventions de Tesla, dont Tesla, on disait.
Oui, j'allais vous parler de
voilà,
Tesla, effectivement.
Dont Tesla avait lui aussi mis au point, paraît-il, un dispositif, une espèce d'oscillateur qu'il avait détruit, paraît-il. Et qui permettait de provoquer une résonance qui pouvait déclencher un tremblement de terre.
Oui. Donc, il avait fait une expérience, d'ailleurs, qu'il a arrêtée tout de suite sur le pont de Brooklyn avec en provoquant un oscillateur qui était de la taille d'une grosse boîte d'allumettes qui a provoqué des résonances telles que le pont pouvait s'effondrer d'un moment à l'autre.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que toutes les recherches de Tesla dans ce domaine-là ont disparu.
Quand il y a eu le. Pas pour tout le monde.
Apparemment, oui. Mais quand il y a eu l'affaire de Kobe, On s'est rendu compte qu'il y avait des gens de la secte Aoum qui étaient partis visiter une association qui s'occupait de toutes les recherches de Tesla aux États-Unis, et ça avait déclenché d'ailleurs une enquête. Donc ça, c'est des trucs qu'on ne sait pas. Évidemment, quand on parle de sujets comme ça, bon, par exemple, comme les... D'ailleurs, là encore, on le voit, les aspects sur les micro-ondes au niveau téléphonie mobile, on vous dit toujours qu'il n'y a aucun risque. Si vous avez des implants métalliques, là, on a... Bon, moi, j'ai été appelé hier soir, ça m'a fait un petit peu rigoler. On a... quand on a des implants métalliques ou en fonction de la longueur qu'ils font, s'ils ont une longueur qui est équivalente à la longueur d'onde d'un émetteur, une pièce métallique de ce type va résonner automatiquement, va entrer en résonance. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que dans les catalogues, on vend des espèces de petites antennes. Ce sont des antennes qui font 10 cm environ de longueur, qui sont faites pour entrer en résonance de façon à amplifier le signal. C'est-à-dire, c'est ce que nous, on appelle des antennes passives. Et bon, même à TDF, quand on voulait faire un relais passif sans mettre de gros moyens financiers, il suffisait de deux antennes, une antenne braquée sur un émetteur et l'autre antenne braquée vers la zone qu'on voulait arroser, et les deux antennes reliées par un câble. Bon, il n'y avait pas d'électronique là-dedans. Bon, ben là, c'est le même principe. Bon, une barre va entrer en résonance. Donc, on peut imaginer que des cavités souterraines, et on va revenir quand même...
C'est comme ça que des cuisinières se mettent à faire entendre de la musique en entendant Europe 1 dans sa cuisinière. Alors, c'est exactement ça. Hein.
Alors, pour revenir à ces aspects de résonance, bon, si on a des cavités souterraines, sous-marines ou je ne sais quoi, en plus avec le pétrole que l'on pompe, ça n'arrange pas les choses. Il est évident que si on a des émetteurs d'infrasons, bon, je ne sais pas quels sont les effets, parce que les infrasons en réalité sont très mal connus, sauf pour ceux qui travaillent au niveau de la recherche, au niveau des explosions nucléaires, mais autrement pour le reste, et je pense même pour une grande majorité au niveau géophysicien, je ne pense pas qu'on connaisse tout sur les infrasons.
Il semblerait que ça a été utilisé dans, au moins étudié comme moyen de communication avec les sous-marins nucléaires.
Alors effectivement, il y a Pingape en Australie, enfin il y a diverses stations, y compris aux États-Unis, qui utilisent on peut le dire carrément, le principe de Tesla, hein. Je n'ai plus le nom de ces émetteurs, mais j'en parle dans le livre, et effectivement, bon, ce sont des émetteurs qui sont faits pour fonctionner en ELF, en extrêmement basse fréquence, parce que les extrêmement basses fréquences, et pourquoi les infrasons pour la recherche pétrolière, tout simplement parce que ça permet d'aller jusqu'à 40 km dans la croûte terrestre, qui doit faire à peu près 100 km en fonction des endroits, 100 à 200 km. Quoi.
Ce que vous dites là, ça fait penser à une information qui a été donnée sur le raz-de-marée du 26, hein, c'est que il semblerait que parmi les premiers animaux qui étaient sensibles à la menace, les éléphants qui communiquent par ELF, enfin...
On ne sait pas comment ils communiquent. On suppose que c'est les infrasons. Mmh. Les infrasons rentrent effectivement dans la gamme des ELF. Alors les cétacés, les premiers échouages ont commencé ils n'ont pas commencé le 28 novembre, ils ont commencé bien avant. Mais les échouages, on a eu des échouages à partir du 28 novembre. Donc la croûte terrestre peut aussi générer, par des frottements, peut générer des ondes. D'ailleurs, les Japonais... Alors, il y a quelque chose qui était marrant à faire... Enfin, dans le temps, c'est un truc que je m'étais amusé à faire pour repérer les ondes telluriques. C'est-à-dire qu'on a une grille qu'on appelle la grille de Hartmann. Il suffisait de régler un émetteur FM entre deux fréquences, et en fonction de qu'elle était à gauche ou à droite de l'une de ces lignes, on arrivait à détecter la ligne, et on passait d'une station sur l'autre. Maintenant, c'est plus possible de le faire, je le dis tout de suite. Et les Japonais ont mis au point un dispositif qui semble fonctionner en VHF, et ils ont repéré donc des anomalies. Je crois qu'il a été démarré cette année, si je ne me trompe pas, en début d'année. Et ce qui s'est passé, c'est que, mais déjà en début d'année, moi j'ai entendu vers la fin du premier trimestre des sismologues qui disaient qu'on risquait d'avoir une très grosse catastrophe vers septembre.
Oui,
c'est pas septembre que ça s'est passé, à trois mois près. Bon, ce domaine-là est quand même assez abstrait. À trois mois près, bon, la catastrophe s'est passée en décembre.
Pour tout Il y a deux choses. Ils annonçaient un risque en septembre du côté de la Californie.
Voilà.
Et ça s'est passé en décembre du côté de...
Alors, c'est pas dit qu'ils en aient pas les contre-coups, parce que là-bas aussi, ça bouge. Bon, j'ai regardé un petit peu toute la liste au niveau des... Bon, je vais prendre depuis début 2004, hein, je vais pas tout lire, mais on a eu, par exemple, le 10 juin, les péninsules de Kamchatka en Russie à 6,9 sur l'échelle de Richter. Bon, quand ça tombe dans des zones qui sont inhabitées, il n'y a pas d'effet d'annonce à la télé. Hein. En septembre,
quand elles sont habitées, pardon de vous couper, mais vous parliez tout à l'heure du tremblement de terre de Tangshan, il y a quand même eu entre 750 000 et 900 000 morts. Moi, j'en parle dans le dernier numéro là, du Libre Journal, j'ai pris la partie basse de la fourchette, 750 000 morts, et j'ai fait des recherches d'occurrences dans la presse à l'époque, il n'y a pratiquement eu aucun papier. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas d'hôtel de tourisme à Tangshan, enfin pas beaucoup, hein. Et puis il n'y a pas beaucoup de petits garçons qui peuvent intéresser les bobos du marais pour... le problème c'est que si un tremblement de terre affecte une région, même pas désertique, mais tout simplement qui n'a pas de caractère intéressant pour le système mondialiste, parce que on n'en parle pas.
Alors moi, ce qui me dérange, par exemple, au niveau de la presse, c'est que actuellement, on a effectivement, j'ai trouvé ça un petit peu indécent d'ailleurs, on a passé, même dans les journaux, quand on prend n'importe quelle revue, on passe volontiers des photos de morts.
Oui.
Par contre, pour ce qui est des causes, c'est marrant, on n'a pas été voir, il n'y a eu aucun écho sur les causes, c'est-à-dire que des scientifiques, parce qu'il y a des scientifiques américains qui ont essayé de prévenir, sauf qu'ils sont fait envoyer balayer par les gouvernements. Pourquoi ? Parce que raison économique. Ça me rappelle un petit peu les films qu'on a vus, parce que c'est marrant. Il y a eu à plusieurs reprises des tremblements de terre, et c'est assez comique comme coïncidence, parce que des fois, entre les tremblements de terre qui arrivent dans la réalité, on voit un film catastrophe qui passe en même temps à la télé.
Ah mais là cette période, je sais pas. Voilà. Si vous avez remarqué, depuis le...
Il y a eu 2-3 effectivement films sur avec des catastrophes, avec les comètes.
C'est inimaginable le nombre de films qu'il y a eu pendant la période des fêtes entre Noël et le Nouvel An sur à la télé. Je n'avais rien d'autre à faire que de regarder la télé, donc j'en ai vu quelques-uns en zappant. C'est incroyable. Toute la journée, on avait sur M6 notamment une comète qui va...
Qui ne sont pas éloignés de la réalité.
Sans doute, oui.
Qui sont assez proches de la réalité.
Alors, tremblement de terre.
Les séismologues qui ont essayé de donner l'alerte se sont quand même fait envoyer balayer. Ils avaient personne à l'autre bout du fil, quoi. On voulait pas les entendre. On voulait pas prendre le risque de les entendre, surtout si ça risquait d'être une fausse alerte, parce que je sais pas combien de dizaines de millions de dollars. Je crois que ça peut aller jusqu'à 50 millions de dollars de pertes, une fausse alerte de ce type. Donc personne n'a voulu prendre le risque. Mais bon, alors moi j'ai quand même fait des recherches. J'ai été un petit peu plus loin pour savoir si on n'avait pas fait une explosion nucléaire souterraine. J'ai pas trouvé trace de ce genre de truc. Maintenant, j'ai pas eu tellement de temps d'explorer toutes les pistes. Par contre, ce que je peux dire, c'est que depuis, alors, au niveau de la partie, ce qui me dérange effectivement, c'est la partie australienne où les tremblements de terre n'ont pas été rapportés par la presse. Et la deuxième chose que j'ai découverte en faisant des recherches, c'est qu'il y a un certain nombre de météorites qui sont tombées depuis le début du mois de décembre, et certaines sont quand même assez imposantes. Donc, quand elles tombent en mer, il n'y a aucun problème. Mais par exemple, imaginons celle de Irkoutsk qui est tombée il y a 2 ans, en 2002, je ne sais plus à quel endroit à peu près. Il y a une zone de 100 km² qui a été rasée. Mmh. Imaginez qu'une météorite comme ça. Alors, parce que là aussi, c'est comique. On vient nous dire, mais vous savez, les météorites, elles n'arrivent jamais au sol. Elles se volatilisent avant. Sauf que ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que j'ai découvert en faisant des recherches, tout à fait par hasard, avant que le tsunami n'ait lieu, que le 11 décembre, par exemple, il y avait des météorites qui avaient sillonné le ciel et qui étaient tombées en Chine, dans la province du Gansu, donc vers 11h36 p.m. Donc, il y a eu ça. Et je me suis rendu compte en allant un petit peu plus loin dans les recherches que le 21-12-2004, on a une comète YD5 qui a frôlé la Terre. On l'a découvert le 20 décembre d'ailleurs 2004 et elle est passée à 20h38 TU à 28 000 km de notre Terre, ce qui est quand même relativement proche. Or, à Jakarta, dans la période du 20 au 25, alors le 19 décembre à Jakarta, ils ont eu une météorite qui s'est écrasée, qu'ils ont pu suivre au radar, ce qui est quand même relativement intéressant. En plus, quand on voit une météorite comme ça de jour, ça veut dire que la météorite est assez imposante. Parce que autrement, on la verrait pas. Donc les gens là-bas ont entendu des explosions. Donc ça s'est passé le 19 décembre, ça a été rapporté le dimanche. Ils ont vu des objets en quelque sorte non identifiés traverser le ciel à grande vitesse. Et on apprend ensuite que l'armée de l'air indonésienne a confirmé l'origine des explosions, que c'était bien des météorites qu'ils ont suivies au radar. Donc ça s'est passé dans la nuit du 18 au 19.
Vous avez entendu aujourd'hui que les radios font état d'un ultimatum, on peut employer le mot, adressé par les autorités indonésiennes aux différentes organisations de sauvetage ou de secours qui utilisent des militaires, organisations étrangères, en disant des médecins autant que vous voulez, mais les militaires, on n'en a pas besoin, rentrez chez vous. On peut se poser la question. Je termine ma question.
Une petite info, justement, les météorites ont une valeur qui est supérieure à l'or.
Voilà, c'est ce que $30,000
$30,000 le gramme.
C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que certains sauveteurs, entre guillemets, soient là uniquement pour essayer de récupérer des informations sur cette pluie météoritique?
Alors, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, j'ai remarqué que, bon, et effectivement, peut-être que les Américains ont peut-être raison de se préoccuper d'un bouclier antimissile, mais si c'est un bouclier antimissile qui est uniquement antimissile contre les missiles ou je sais pas quoi, ou à moins que le bouclier antimissile serve à autre chose, parce que là il va être lancé dans le courant de l'année 2005, donc vers juin-juillet, un engin qui doit aller également à la rencontre d'une comète. Donc on peut se demander si c'est pas quelque chose, une étude, voilà, ça va être lancé le 14 juillet 2005 vers la comète Tempel, donc un vaisseau spatial flyby qui va emporter un impacteur, enfin une sonde, et qui va entrer en collision donc avec la comète. On peut donc se demander si on va pas faire un peu comme dans les films science-fiction. Dans le but déjà de déterminer les solidités des comètes de façon à pouvoir les détruire après. Bon, là, faut pas rêver, parce que même une comète ou un astéroïde qui vient vers la Terre, si on veut le détruire, c'est pas dit qu'on arrive à le détruire. Ou alors, si on veut envoyer un missile nucléaire dans l'atmosphère, faudra le détruire du premier coup, parce que je peux vous dire que les satellites qui sont dans l'espace, ils risquent plus de fonctionner après. Ça, c'est clair, avec l'impulsion IMN, et puis de toute façon, tous les débris qui vont se balader en orbite, il y aura plus de satellites. Donc,
avec un peu de chance, on peut retourner à l'âge des pierres assez rapidement.
De toute façon, apparemment, c'est déjà arrivé. Et si on se base sur l'explosion dans la Tunguska en 1908, plus Irkutsk, où on dit que... Alors oui, il y a des fois des journalistes, je sais que là, dernièrement, il y a des personnes qui ont appelé RTL, j'ai su ça incidemment, parce que je n'écoute pas toutes les radios 24-24, et puis apparemment, il y a des personnes qui connaissent mon livre, et qui disaient aux journalistes RTL, oui, il faut surtout lire le livre où on parle de toutes sortes de formes de guerre, ceci, cela. Et le journaliste a dit, il ne faut pas faire de catastrophisme. Bon, effectivement, il ne faut pas faire de catastrophisme.
C'est de la pensée magique.
Il ne faut pas
en parler.
Oui. C'est Sumatra, en Inde, il ne faut pas paniquer les gens.
Non.
À part que les VIP, si j'ai bien lu la revue Marianne donc de Jean-François Kahn, il signalait quand même qu'apparemment il y avait des VIP qui avaient été prévenus pour qu'il y ait des guerres pistes le plus rapidement possible. Donc il y a une certaine élite qui est alertée et bon bah les autres bah ils restent où ils sont quoi. Bon mais pas faire de catastrophisme, eh ben on voit ce que ça donne avec le tsunami en Indonésie et puis à mon avis quand on alors le dernier chiffre qu'ils ont donné tout à l'heure c'est 160 000 morts mais je crois qu'avec les disparus on va arriver à 200 000 morts. Donc de toute façon le donc il y a deux aspects qui n'ont pas été cités par la presse. Bon l'île de Macquarie et puis les tremblements de terre qui ont commencé en Nouvelle-Zélande et en Australie et bien avant et à Macquarie bien surtout qu'il y avait un navigateur bon j'ai plus son nom qui était sur place du côté de Macquarie je crois que c'est Goss il s'appelle Joss ou j'ai plus son nom en tête et il était dans les eaux de Macquarie quand il y avait les tremblements de terre donc ça on n'en a pas du tout parlé donc quand on en aurait parlé peut-être que ça aurait éveillé les soupçons parce que ça a l'air de suivre une diagonale le séisme ça a l'air de partir du bas donc du côté de la Nouvelle-Zélande de suivre une ligne jusqu'à Sumatra or c'est également la ligne que semblent suivre certaines météorites également parce que des météorites on n'en a pas ramassé que là hein. En ce moment même alors ça c'est le 14/6/2004 bon maintenant il faut savoir qu'en décembre on a une pluie de météorites qui passe dans le ciel je crois que c'est dans la période du 7 au 17 décembre j'ai pas les oui c'est ça du 7 au 17 décembre on a un dessin qui est l'essaim de météorites géminides qui est assez actif mais les météorites qui sont arrivées après ou alors c'est des retardataires parce que l'essaim normalement il aurait dû être passé au 17 décembre il aurait dû être passé bon à moins qu'il y ait ce fameux astéroïde qui nous ait fait cadeau de la TVA si je puis dire et qui nous a envoyé des météorites supplémentaires bon puisqu'il a frôlé la Terre donc là je peux pas répondre parce que il y a que des astronomes qui pourraient répondre mais le 27 décembre par exemple à Saint-Geniez il y a quelqu'un qui est à Saint-Geniez donc Alpes-de-Provence c'est pareil il y a quelqu'un qui a retrouvé qui a eu un impact dans son jardin d'une quinzaine de centimètres donc on suppose que donc en France aussi on en a reçu Jakarta bon ça je l'ai dit le province de Gansu je l'ai dit également donc il y a un certain nombre de météorites qui sont tombées durant le mois de décembre et ça vient des débris de la comète 8P Tuttle c'est ce qu'on appelle les douches météores enfin appelées urcides quoi également donc là je suis pas trop spécialiste en astronomie s'il y en a qui veulent vous renseigner ils vous renseigneront plus approfondément
on a des questions là qui des questions ou des réflexions qui font un peu avancer les choses je trouve c'est par exemple, un auditeur nous interroge et il nous apporte l'information en même temps. Enfin, en ce qui me concerne, il apporte l'information. Savez-vous qu'au large de Phuket, du côté des îles Andaman, il y a Nicobar, ancienne base soviétique de sous-marins, reconvertie en zone d'essai de stockage d'armes nucléaires?
Oui, il y a Nicobar également qui a eu aussi des secousses sismiques également. Alors, bon, Nicobar, j'ai regardé là aussi, mais enfin, pour l'instant, enfin, oui, comme vous l'avez dit, bon, c'est peut-être trop tôt, mais j'ai pas trouvé trace d'explosion nucléaire pour l'instant. Par contre, traces de météorites qui nous sont tombées sur le coin de la figure, là, j'ai trouvé des traces. Donc, on peut tout imaginer. Il n'y a pas besoin d'une grosse météorite. Il suffit que ça tombe sur un endroit d'une faille où c'est une zone assez sensible, c'est un peu comme le principe du levier. Une tonne, une masse d'une tonne, vous n'allez pas la soulever. Par contre, si vous avez une barre de 2 mètres, et que de 2 mètres plus long, et que vous pesez de tout votre poids dessus, vous allez déplacer la masse. Donc là, si vous avez une météorite qui tombe où il ne faut pas au niveau d'une faille, ça peut avoir des conséquences. Ou même, tout à l'heure, je parlais des infrasons pour la recherche pétrolière, enfin des airguns. Si on utilise un tel dispositif à des endroits qui sont
fragiles,
ça peut avoir des conséquences. Surtout que ces ondes-là se propagent assez loin à travers l'eau. Et même quand on fait, je parlais tout à l'heure de 230 dB de niveau sonore quand c'est dans l'air, c'est deux fois moins. C'est-à-dire on va être à 140, 130 dB, alors que dans l'eau, on va tout de suite passer à 230, 240 pour la même puissance.
140, c'est déjà terrifiant.
Même à 85, à 100, vous résistez pas. Hein. Les Russes ont utilisé ça, notamment pour faire craquer les agents à l'époque. Oui. Où...
Bah, ça avait été utilisé par les Américains aussi.
Oui, on va tout le monde.
Tout le monde les a. Tête d'ananas, comment il s'appelait le président du Panama qui était enfermé dans sa.
Noriega,
qui était enfermé dans sa résidence. Alors, ils ont bombardé la.
C'est assez comique parce que c'était du temps de Bush père. Mmh. Ils ont même utilisé des agents psy-médiums qui ont été. Alors, ça, on ne le sait pas beaucoup. Parce que c'est le Sanford Vigers Institute International qui a été chargé de faire des recherches et de trouver des agents psy. Et ils ont utilisé pour tenter de savoir où se trouvait Noriega. Mais ça, c'est un truc qu'on ne sait pas beaucoup.
Un auditeur nous fait remarquer que dans certaines voitures fréquentées par une certaine jeunesse, ils ont des systèmes de sonorisation de plusieurs centaines de watts. Oui, c'est ça, c'est des watts.
Oui, oui.
Qui permettent de passer du rap. Et effectivement, on les entend. Quand vous traversez Paris, ça fait vibrer les murs des immeubles, littéralement. Alors on imagine celui qui est dans la voiture, ce qu'il doit prendre dans la tronche. Comme ils ne doivent pas avoir beaucoup de cervelle, ça ne doit rien arranger non plus.
Alors justement, ils ont fait une expérience. Alors ça vient de me tomber là il y a quelques jours. Ils ont fait une expérience dans une salle de concert où ils ont, ça a été fait en Angleterre avec des sons très basse fréquence, où ils ont émis en même temps des infrasons. Donc ça a été avec le docteur Richard Lord au laboratoire national de physique d'acoustique, hein, et le professeur Richard Wiseman, voilà, psychologue de l'université de Hertfordshire, où ils ont fait un concert avec 750 personnes, et dans la musique ils ont émis des infrasons en même temps, et ils ont eu au niveau de 22% du public qui ne savait pas ce qu'il y avait dedans, ils ont eu des réactions un peu comme on retrouve avec les micro-ondes justement qui sont en ELF, certaines micro-ondes en ELF comme pour les radars avec des états de dépression. Ils ont retrouvé des aspects un peu tristesse, frisson, peur. Enfin, c'est-à-dire ce que les procédés qu'utilisaient les soviétiques effectivement avec les fréquences de 7 Hz pour faire craquer les individus quand ils voulaient faire des interrogatoires.
La musique actuelle rend idiot. Non, quand même pas.
C'est-à-dire qu'il y a certaines ondes sonores, si on les introduit dans la musique, qui vont... Mais ça, c'est pas... on le sait depuis les années 70. Les Russes ont travaillé là-dessus. Donc, c'est pas une découverte. C'est-à-dire que des ondes sonores, des infrasons comme ça, glissées dans des morceaux de musique, voire de films, peuvent modifier le comportement d'une personne dans une salle de cinéma. Mais là, on rentre dans les domaines des ondes sonores subliminales ou des images subliminales, ce qui a été fait aussi, ce qui a été étudié. Même à la Sorbonne, ça a été étudié dans les années 70, si je me rappelle bien. Il y a une étude qui a été faite là-dessus. Et d'ailleurs, si on se rappelle le fameux A d'Antenne 2, dans lequel il y avait le reflet de François Mitterrand à l'époque, oui. C'était la veille de... Ça a fait un gros scandale. Personne ne se rappelle de cette affaire-là. J'ai encore tout le descriptif du système qui a été utilisé à l'époque.
Est-ce que vous avez des questions, Victoria, qui s'adressent à Marc Filterman?
Quelques commentaires. Merci d'avoir invité Marc Filterman. Pourrait-il nous parler de Tesla et de ses expériences électromagnétiques?
Écoutez, je pense qu'on va faire une émission sur Tesla. J'ai le projet de faire une émission, mais c'est assez difficile à mettre en place parce que si on veut la faire avec des gens sérieux, il faut d'abord trouver des gens qui connaissent le sujet et ensuite, parmi ces gens-là, il faut trouver des gens qui acceptent d'en parler, ce qui n'est pas toujours très 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 facile. Parce que c'est vraiment un sujet brûlant.
On rentre carrément dans le domaine militaire et même là, dès que vous parlez des problèmes des micro-ondes, des GSM et tout le cirque, là encore, j'ai été à une conférence où il y avait monsieur Bouillet de Bouygues Télécom, où il disait qu'il n'y avait aucun problème, il a cité le bulletin de l'AFSA de 2003, je lui ai dit attendez, il y a le bulletin de l'AFSA de 2004 qui contredit celui de 2003, mais le bulletin de l'AFSE de 2004 ne figure pas sur le site de Bouygues Télécom. Celui-là, on l'a oublié. Mais donc je le lui ai rappelé lors de la conférence.
Il y aurait un moyen d'ailleurs de régler le problème, ce serait de dire à ce monsieur, écoutez, si vraiment ça pose aucun problème, on va vous poser sur la tête.
Non, non, alors attendez, 72 heures. Attendez, moi j'ai proposé un texte de loi, j'ai envoyé ça à quelques députés, il y en a certains qui m'ont répondu en me disant, je comprends l'humour de votre proposition, j'aurais proposé d'appliquer la norme de 41 volts par mètre aux députés et aux experts, c'est-à-dire qu'on prend les députés, les experts, Bernard Véry, voilà. On prend Monsieur Douste-Blazy, et puis on les expose à 41 volts par mètre, 58 volts par mètre, parce que, bon,
Douste-Blazy risque rien. Hein.
41 volts par mètre, j'ai demandé à Monsieur Bouillet, bon, mais pour quelle durée d'exposition? Alors il était bien embêté, il a quand même dit, ah bah oui, c'est, oui, vous voulez parler des 6 minutes, mais cela ne veut pas dire qu'au bout de 6 minutes, on va avoir des problèmes sur la santé. Donc, bon, s'il n'y a pas de problème pour la santé, moi je propose qu'on prenne les députés, puis qu'on les expose à 41 volts par mètre et 58 voilà. volts par mètre pendant toute une journée. Bernard Véré également, bon, Louis Miro, enfin tous, et puis René de Sèze. Bon, moi je vois pas pourquoi ils expérimenteraient pas, ça me paraîtrait tout à fait normal. Alors, je tiens quand même à préciser que l'arme qui a été développée, le VMADS qui a été développé par le Pentagone, qui fonctionne pas à la même puissance, la durée d'exposition, enfin le temps d'émission, est limitée à 3 secondes. Oui. Mais enfin, là, il faut dire qu'on n'est pas à quelques dizaines de watts, hein, on est à plusieurs centaines. C'est un système d'armes qui a été développé en 2001, dont j'ai les photos. J'ai publié d'ailleurs les photos des sources sur mon site internet et certaines informations techniques. Donc ça aussi, ça a été étudié également par les Russes. D'ailleurs, les Russes ont fait des dispositifs, eux autres, c'était pour déglinguer le matériel électronique.
Notre question, Victoria.
Il vient d'y avoir un tremblement de terre et des inondations aujourd'hui en Californie. Est-il vrai que la région de Yellowstone a des risques d'une gravité énorme?
Ah oui, il y a un volcan là-bas en plus, si je ne me trompe pas. Et bon, là, pour la Californie, pour Los Angeles, où j'ai quelques amis là-bas aussi, il y a un gros problème parce qu'il y a en plus la faille de San Andreas. Donc tout le monde aux États-Unis attend le Big One, comme au Japon d'ailleurs. Hein. Le Japon n'est pas mieux loti que la Californie. Hein.
Je rappelle qu'un épisode, ça va faire, ça va amuser, ou ça va me faire passer une fois de plus pour un rigolo, mais dans Superman, le premier film Superman de la version récente, dont le personnage est mort il n'y a pas très longtemps, là, toute l'histoire repose sur le fait que un malfaisant achète des terrains dans le désert. Et donc à très bas prix, il achète des milliers et des milliers et des milliers d'hectares en plein désert, et on découvre à mesure que le film avance qu'en réalité il est en train d'acheter le futur bord de mer. Parce que au moment du grand séisme de la faille de San Andreas, toute la partie ouest va s'effondrer dans le.
Oui, je me rappelle le film.
Et il y a une scène au cours de laquelle il tape avec son bâton film. Sur, enfin sa canne sur une plaque de verre où est dessinée la côte, et on voit la faille de San Andreas.
Oui, il y a un film comme ça avec James Bond aussi. Il y a un James Bond comme ça.
Peut-être aussi.
Je ne me rappelle plus.
Voilà. Donc, faudrait étudier le rôle des banquiers et des agents immobiliers dans le développement des séismes.
Mais bon, enfin, pour en revenir au séisme, disons que le plus inquiétant, à mon avis, les risques les plus importants, d'ailleurs, c'est ce que pense aussi Donald Yeomans de la NASA. Il faut savoir qu'on a une comète qui va revenir en 2029. Ah. Et si on se réfère à
Hirschhorn. Ça prend 5 ans, ça va.
Si on se réfère à Hirschhorn, des astéroïdes, on en découvre assez régulièrement. C'est pas exclu qu'on en reçoive une où il faut pas. Parce que quand j'entends les astronomes qui disent oui, c'est très rare de recevoir des météorites, moi quand je vois qu'il y a une météorite, qu'il y en a un qui l'a reçu dans son canapé.
Moi ça me gênerait surtout aux 4 places françaises, mais si c'est 12, ça me va pas.
Ça commence à m'ennuyer parce que apparemment les météorites, on constate qu'elles tombent. Alors, en Californie, notamment, ils ont eu il y a une météorite qui a été estimée à 10 tonnes. Ben, on parle de la Californie. Le 29 29 mars 2003, dans la nuit, attendez, ça doit être du 26 au 27 mars 2003, vers minuit, à l'ouest des États-Unis, dans l'Illinois, l'Ohio, Wisconsin, ils ont vu une météorite passer, et puis il y a eu des débris, des roches de 2,5 kg. Alors même si vous recevez une orange, mais vous élargissez sur la figure à, du 10e étage, je pense pas qu'elle frappe bien. Alors une météorite de 2,5 kg, je pense pas que ce sera mieux. Alors,
cela dit, ça a aussi son avantage, parce que vous nous disiez tout à l'heure que certaines coûtent 100 000 $ le gramme.
Non, 30 000 $ le gramme.
30 000 $ le gramme.
Mais à mon avis, les autorités seront passées avant, parce
Je suggère à l'intervenant de s'intéresser à la base américaine de sous-marins atomiques de, se trouvant dans le détroit de Bonifacio, entre la Corse et la Sardaigne. Personne n'en parle. Il y a peu de temps, il y a eu un incident dont on n'a pas parlé dans les médias.
De toute façon, les incidents, comme vous disiez, c'est secret des forces, donc ça, personne n'en parle. Et bon, quelque part, je dirais, bon, dans ce domaine-là, c'est quand même un petit peu plus ou moins normal, quoi.
Mais c'est dans le détroit de... Ça s'appelle Lanzarote, ce détroit, non? Entre la Sardaigne et la Corse, c'est pas ça?
Alors là, le nom...
Lanzaro ou quelque chose?
Oui, peut-être, là, je sais pas.
Il y aurait une base de sous-marin?
Des bases de sous-marins, il y en a de très discrètes. Ben, moi, écoutez, je vais vous dire... Non, mais je vais vous dire une chose. Quand je disais à des amis ingénieurs en 90, par exemple, à l'époque où j'étais à TDF, j'avais... bon, je connaissais les ingénieurs qui travaillaient dans le domaine de guerre électronique, et même avant, et je leur disais, mais vous savez, il y a à certains endroits, bon, vous avez des bases souterraines, et puis, comme les gus, ils s'ennuient, ils remplacent, comme ils n'ont pas de fenêtres, bon, ben, ils font des fausses fenêtres, et puis ils mettent des paysages derrière, ce qui était vrai d'ailleurs. Et Thalassa sur France 3 a montré une de ses bases comme ça qu'il y a en Suède d'ailleurs, où vous rentrez avec des corvettes, vous rentrez avec des sous-marins dans des collines et vous avez des murs de roche qui coulissent. Même en Suisse, vous avez des canons qui sont camouflés sous des rochers amovibles, si je puis dire. Vous voyez le rocher qui tourne avec le canon. Bon, vous avez des trucs comme ça. En France, on n'est pas capable de faire ça parce qu'on n'a pas les moyens. On paye pourtant autant d'impôts, mais je ne sais pas où passe le fric.
Je vous dirai ça en réponse.
Ah oui.
Les Américains, j'ai entendu dire que les Américains auraient installé en Angleterre un complexe permettant de créer des séismes. Qu'en est-il? En fait, n'est-ce pas une machine de guerre?
Il faut quand même, bon, il faut quand même arrêter de...
C'est au Canada, je crois que c'est plutôt en Alaska, ARP, le complexe.
Ben, oui, il y a certains systèmes. Bon, effectivement, il y a eu des collaborations même avec l'Australie, par exemple, pour des armes nucléaires, parce que l'Australie s'intéresse à l'arme nucléaire aussi, il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, ils ont acheté des barges. Alors, là aussi, c'est assez comique, parce que l'Australie est opposée, a fait tout un cirque avec la France, Bururoa et tout le cirque. Alors, si vous prenez le rapport de l'Assemblée nationale, non, ou du Sénat, je ne sais plus lequel des deux, j'ai un rapport du Sénat, ou un sénateur ou un député, je ne sais plus, spécifie que c'est quand même assez comique, l'histoire, parce qu'ils ont quand même acheté des barges qu'on utilisait à Muru pour les explosions nucléaires.
Ça veut dire qu'ils vont nous acheter Chirac, donc.
Là, je ne peux pas vous
répondre. S'ils achètent des barges, moi,
Donc, les barges qui étaient utilisées dans le domaine nucléaire ont été achetées par l'Australie. Alors, je ne sais pas pourquoi, à moins que ce soit pour installer des airguns dessus, les canons à air pour sonder le sol, j'en sais rien, parce que le trou de forage que peuvent faire ces barges-là également peut atteindre 1,50 m, 2 m, pour faire descendre, pour pouvoir mettre une bombe dedans. Quoi.
Vous voulez la question qui tue?
Oui.
Lorsque les deux tours du World Trade Center sont tombées, cela n'a pas provoqué de raz-de-marée? Comment expliquez-vous que ça provoque des raz-de-marée avec des météorites?
Ou l'État d'Israël.
Alors, attendez, ça pour les météorites, ils n'ont qu'à se renseigner avec les géophysiciens. D'ailleurs, même la Tribune de Madagascar, pour vous dire, la Tribune de Madagascar a publié un article comme quoi il disait qu'une météorite tombant dans l'océan pouvait provoquer un tsunami. Donc, ouais. Même à Madagascar, apparemment, ils sont mieux renseignés qu'en France, visiblement.
Accessoirement, les Twin Towers ne sont pas tombés dans l'océan.
Les Twin Towers, c'était au centre, oui, étaient. Bon.
Où l'État d'Israël, qui possède la bombe atomique, effectue-t-il ses essais nucléaires?
Alors ça, c'est là...
Le désert du Negev.
Mais ça m'aurait étonné qu'on ne pose pas une telle question, parce que apparemment, ce que je sais, effectivement, c'est que l'Afrique du Sud et Israël se partageraient un site. Je n'ai pas le nom du site, enfin, ce serait quelque part je pense que c'est un îlot au large de Madagascar, je peux pas dire, hein. Mais je sais, bon, une chose est sûre, c'est qu'il y a effectivement une collaboration entre l'Afrique du Sud et Israël. De même qu'il y a une collaboration entre l'Australie et les États-Unis, ce qu'a souligné un député australien d'ailleurs.
Il y a certainement des gens qui auraient pu vous répondre d'une façon intéressante, c'est les parachutistes de la Légion étrangère qui ont sauté sur Colvézi. Malheureusement, il n'y a pas de survivants.
Ouais, et ça,
parce qu'ils se sont tous tués dans un accident, enfin, pas tous, mais beaucoup. Se sont tués dans un accident à Djibouti. Leur avion de largage s'est écrasé sur une montagne. Et il y avait toute la compagnie grise qui était à bord. Et c'est quelque temps après que le colonel Hérulin soit mort d'une crise cardiaque après avoir fait son jogging comme tous les matins. Donc voilà, on sait pas quoi, voilà. Hein? C'est ça qu'on répond, on ne sait pas.
Bon, on ne sait pas.
ça, vous n'en savez pas plus que moi.
Donc là, sur ce domaine, j'ai pas été...
Donc, alors, dans ce cas, si vous ne savez pas, parlez-nous du projet AARP.
C'est pareil.
Que pensez-vous du livre de Louise Courtauld, Les anges ne jouent pas de cette AARP?
Alors, ce livre-là, c'est un livre dont j'ai entendu parler, mais que j'ai pas pu lire, malheureusement. D'ailleurs, elle m'avait contacté, justement, par rapport aux documents techniques que j'avais récupérés. Et moi, je l'avais renseigné à l'époque. Je lui avais donné quelques informations, quoi. Donc, depuis, je crois qu'elle doit parler de Tesla. Elle a dû mettre 4-5 pages dessus aussi. Mais j'ai pas plus d'infos sur...
Le problème des éditions Louise Courtauld, c'est des éditions canadiennes, et c'est assez difficile de faire venir les gens ici.
Oui, du Canada ici, il faut payer le billet d'avion.
Les auteurs du livre jaune, par exemple, que j'aurais bien aimé recevoir, ils ne sont pas disposés à parler. Ils veulent bien écrire, mais ils ne veulent pas parler. Alors, comme ça.
Alors attendez, il y a eu un autre livre, alors je ne sais pas si c'est le même. Non, mais ça lui est de la version française, celui-là, effectivement. Donc,
il nous reste 3 minutes pour les dernières questions.
Une petite comme ça, rapide. Le déluge était-il un tsunami?
Ça peut être tout à fait possible, effectivement, parce que quand on voit la hauteur des vagues, une dizaine de mètres, a priori, au niveau des Tsumani, ce qu'on a vu ou qu'on a eu l'occasion de filmer, ils atteignaient une dizaine de mètres, ce qui n'empêche pas qu'il y en ait eu par le passé, apparemment, jusqu'à une trentaine de mètres.
L'explication du déluge, elle est dans la Genèse, figurez-vous, Fermi, ouais. Elle figure dans le deuxième jour de la création, quand Dieu sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas, et qu'il ne dit pas que cela était bon. Il ne vit pas que cela était bon. C'est le seul jour dans la création où Dieu ne vit pas que cela était bon. Et certains exégètes de la Bible pensent que c'est parce que, à ce moment-là, il a armé, en quelque sorte, l'arme du déluge.
En tout cas, à Ur, en Chaldée, où je suis allé, je suis descendu à 25 mètres de profondeur, à peu près, ou 20 mètres. Tout près de la ziggourate de Ur, et j'ai vu la coulée de boue, comme beaucoup, ouais. Qui fait au moins 3 mètres 50 de profondeur. C'est assez... Parce qu'on a des strates, et d'un seul coup, ouais. c'est cette boue qui est là sur tout le massif mésopotamien.
En fait, il semblerait, si on lit la Bible d'une façon un peu attentive, enfin la Genèse, dans la Vulgate notamment, on constate, tiens, un jour, il faudra qu'on parle ici de la réédition de la Vulgate, qui est un travail magnifique. Il semblerait que... La terre a été irriguée uniquement par de la rosée et pas du tout par des pluies jusqu'à Noé. Les habitants de la terre pré-noachites ne connaissaient pas la pluie. Donc l'irrigation était assurée par la rosée. C'est d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas écouté Noé quand Noé leur a dit « il va nous tomber toute l'eau du ciel sur la tête » parce qu'ils n'avaient jamais vu ça, ils ne pouvaient pas comprendre. Et donc quand il a plu, c'est l'eau du ciel qui tournait sous la forme d'un anneau autour de la terre qui est tombée. C'est au moins une hypothèse qui correspond à au texte de la Genèse. Voilà. Une dernière question, Victoria, pour Mark Filterman.
Cela, c'est une toute petite. Je possède un jeu vidéo américain qui s'appelle Alawar. Peut-être à tort, cela me fait penser. Et puis, savez-vous combien de B-52 et de bombes atomiques ont été emportées par le raz-de-marée sur la base stratégique américaine au sud des îles Maldives?
Alors, il y a un truc qui est assez intéressant, justement, c'est que dans la presse, on n'a pas du tout parlé des sous-marins qui étaient dans le Pacifique, on n'a pas du tout parlé des bases militaires, et ça a été le blackout total. Par contre, San Diego, tous les îlots ont été avertis, ont été alertés par la NOAA, qu'il allait y avoir des raz-de-marée et qu'il y avait des tremblements de terre. Alors, je voudrais finir sur la revue Le Point, justement, qui a fait un article, donc Le Point du 6 janvier, qui a fait un article qui est assez intéressant, justement, où il énumère les différentes catastrophes avec les dates, le nombre de morts. Et justement, tout à l'heure, un auditeur posait la question sur le Yellowstone, et ben on parle du Yellowstone dans l'article. Donc, d'un super volcan qui risque de péter à tout moment, là aussi.
Merci, Mark Filterman. Donc, on peut lire surtout votre livre qui s'appelle Les armes de l'ombre, et qui est paru aux éditions Carnot. Alors, si on vous demande où sont les éditions Carnot, c'est toujours la même adresse?
Alors, honnêtement, je ne sais pas s'il reste des livres, s'il est toujours disponible, puisque, effectivement, on est plusieurs auteurs en litige avec l'éditeur Carnot.
Ah, bon.
Donc, et puis là aussi...
Là, on peut s'adresser à vous, et puis on peut trouver votre site sur Internet. Alors,
voilà. Sur Internet, il y a pas mal d'informations sur ARP.
L'adresse rapidement, si je la trouve.
Alors, www.multimania.com/filterman. Alors, Filterman, je vais appeler Filterman.
Voilà.
Donc,
www.multimania.com/filterman.
Merci Mark Filterman. Et
merci.
Puis à bientôt, vous reviendrez.
Bonsoir.
Nous voir pour reparler de votre travail. Bien, après ce moment de tension sismique, quasiment, on va se changer un petit peu les idées. On va même se changer complètement les idées, parce qu'on va passer à un sujet léger, sujet qui fait rêver les vieux adolescents que nous sommes, mon cher Guy.
Eh oui.
Je vois pourquoi je veux t'appeler Philippe, Eric, n'importe
quoi. Oh
bon. Allez, restons-en à Guy. Alors, il s'agit d'un sujet que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Non, malheureusement.
Vraiment pas,
malheureusement.
Et que seuls connaîtront les plus de 40 ans ou les plus de 35, disons. Et c'est les petits formats. Qu'est-ce que c'est que les petits formats? Eh bien, c'était ces bandes dessinées qu'on n'avait pas le droit de lire. Donc, c'était naturellement les meilleures.
Qui avaient mauvaise réputation.
Qui avaient mauvaise réputation. Et pourtant, quand on voit ce que c'est...
Monsieur l'abbé.
Oui. Et c'était porteur de messages aussi intolérables que l'amour de la patrie, le respect de l'héroïsme, la rigueur, la parole donnée, la morale, enfin tout ça. Et nos parents nous disaient, t'as fini dire ces cochonneries, espèce de petit salopard. Bon, voilà.
Black Le Roc, Zambla.
Ben oui,
Zambla.
Ben voilà.
Et puis alors, c'était extraordinairement d'une grande nullité, mais c'était très amusant.
Kit Carson, voilà.
Voilà.
Alors, je vois Christophe Maillot qui a... Alors là, il est complètement...
Ben, il nous regarde...
Je ne sais même pas de quoi on parle.
J'ai le bonheur d'avoir sur mes étagères... JG.
Ah oui,
c'est
de la bande dessinée très
sérieuse.
Très comme il faut.
Voilà. On vous parle de petit Mickey, vous oui. Parlez de 8e art. On se parle dans la même catégorie. Et vous, Victoria, qu'est-ce que vous confisquiez aux élèves de vos classes?
Ah oui, tiens.
Non, mes élèves ne disaient pas ce genre de choses.
Oh.
En classe, ils ne me les mettaient pas sous le nez.
Non, mais dans la cour de récréation.
Autant Victoria, c'était la semaine de Suzette, c'est ça qu'il faut dire.
Je lisais Les Mille et un Tours de l'Espiègle Lily.
Ah ben voilà.
Et je lisais Les Pieds Nickelés. Enfin, c'était mon frère, mais je le lisais.
Et puis, vous avez remarqué qu'il y a un auditeur qui nous le dit, d'ailleurs. Julien ressemble beaucoup
à Riboudin,
Croquignol ou Filochard?
Croquignol.
Ah non, lui, c'est Filochard.
Ah non, Filochard. Non, Julien ressemble à Croquignol.
Il nous dit, l'auditeur, que si on mettait... Enfin bon, je ne sais pas.
Non, vous dites n'importe quoi. Julien, c'est...
Croquignol.
Croquignol. Et il dit, Yannick Urien, mettez-lui une barbe, on dirait Philochard. C'est pas vrai d'ailleurs, il n'y a pas de barbe, Philochard. Il a une petite moustache.
C'est ça.
Celui qui a une barbe, c'est Ribouledingue. Et qui a la même coiffure que moi. Voilà, bon, toutes ces choses étant dites. Alors, revenons au,
oui,
au petit format. Alors, les grands fabricants de petits formats, c'était.
Alors, il y avait des éditeurs à Lyon, hein. C'était surtout à Lyon.
Lug.
Il y avait Lug. Il y avait Imperia aussi à Lyon.
Imperia,
il y avait la SER de Mouchot. Fantax, etc. Et puis à Paris, il y avait les éditions Aventures et Voyages.
Aventures et Voyages, qui était vraiment quelque chose de tout à fait de grande qualité.
Voilà, c'était
généralement dessiné par des Italiens.
Oui, mais il y avait aussi des Français.
Quelques Français.
C'était,
avec de très bons scénaristes.
C'était Hakim, par exemple, pour donner quelques titres.
Hakim, Black le Rock, bien entendu.
Captain Swing.
J'ai demandé le troisième que je lisais.
Les Briques. Briquiac.
Et puis il y avait aussi ces histoires d'astronautes qui ont bercé mon enfance.
Ah ça c'est Météore. Alors, ça c'est Artima, c'est on
Artima,
monté plus,
voilà,
plus au nord, c'est à Tourcoing. Voilà. Mais sache qu'on fera une émission.
On fera une émission
parce que l'auteur, enfin un des auteurs vit toujours et on pourrait l'avoir au téléphone.
Et alors
dans ses souvenirs, donc Guy Sagère dit qu'il a travaillé pour ses
Il a travaillé pour la Fleetway. Alors c'était des petits formats anglais. Qui vendaient en France leurs
œuvres. C'était les aventures de Briggs.
Briggs. Oui, à Briggs. Oui, d'accord.
Et donc vous avez rencontré un introuvable, parce que c'est un homme qui est tellement occupé, je voulais toujours l'avoir
dans sa librairie.
On ne peut pas, il est blotti dans un coin de sa librairie, il n'en sort que pour regagner ses pénates.
Oui.
Gérard Thomasian, qui était un des plus grands.
Le plus grand spécialiste des petits formats.
Distributeur, collectionneur, antiquaire de petits formats.
Et il sait tout sur les scénaristes, les auteurs, les dessinateurs. Et donc, il a déjà travaillé et publié d'ailleurs des encyclopédies, trois encyclopédies sur ces petits formats. Vous parliez de Luc, vous parliez de Imperia et de la SER de Mouchot à Lyon. Donc, ça, c'est les éditions lyonnaises. Et là, il vient de sortir une nouvelle formule de ces encyclopédies. C'est un gros bouquin.
Super.
Sur les éditions Aventures et Voyages.
Très très beau. Ça s'appelle Fantasmac Édition en plus.
Voilà, ça c'est le nom de la librairie.
Encyclopédie Thomasian des bandes dessinées. Alors, naturellement, vous avez Marco Polo, Brick, Diavolo, Panther Black, Yak, Dakota, Biribu, Totem. Enfin, moi, chaque titre me rappelle ou une gifle ou un coup de pied aux fesses.
Il n'y avait pas Buck John aussi.
Si,
Buck John, c'était les éditions Imperia de Lyon. Si, c'était un western.
Et pourtant, c'était vraiment superbe.
Il y a d'excellents dessinateurs.
Plein de bons sentiments. Ouais. Les aventures de Whippy. Alors, il y avait toujours.
Très belle couverture.
Il y avait toujours les gentils, les méchants.
Bien sûr.
Le jeune homme, enfin, le jeune garçon orphelin qui se bat. Le vieux médecin alcoolique,
voilà,
mais
voilà.
Repenti.
Oui.
Toujours repenti. Voilà, et puis il y avait mon idole, le petit duc, enfin ça c'est autre chose.
Oui. On en a parlé sur cette antenne déjà.
Mais dans Black le Rock, c'était un combat contre les Anglois.
Ah oui.
Les tuniques rouges, là c'était très pro-français, canadien-français, c'était formidable.
Tout à fait. Dernier tunique en fer et damnation.
Voilà, les godons.
Les godons.
Et oui. Alors donc, j'ai rencontré Gérard Thomasian il y a quelques jours. C'est une interview par téléphone que j'ai enregistrée. Et bien sûr, la première question que je lui ai posée était de savoir comment cette passion lui était venue.
Elle est venue de l'enfance, de l'âge où j'ai commencé à lire des bandes dessinées. C'est-à-dire que dès l'âge de 5-6 ans, quand on commence déjà à apprendre à lire dans les petits illustrés de l'époque, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je suis né en 1949, donc dès 1955-56, j'ai eu entre les mains ces petits illustrés qui paraissaient dans les kiosques. Et puis, j'ai lu, j'ai dévoré toutes ces bandes dessinées qu'on appelait à l'époque des illustrés d'ailleurs, et qui étaient très très présents dans les kiosques à cette époque.
Et qui étaient très mal vues aussi.
Qui étaient très mal vues, oui, notamment des parents. Il fallait presque se cacher pour les lire. Quelqu'un qui lisait des illustrés était considéré à l'époque comme un cancre. Ou tout au moins comme un mauvais élève. C'est vrai que c'était pas considéré comme une bonne littérature.
Et puis après, tu es devenu collectionneur.
Quand on est enfant, on ne collectionne pas, on dévore, on est plutôt le simple lecteur. D'ailleurs, il n'était pas possible de garder toutes ces bandes dessinées. Les parents n'auraient pas accepté qu'on ait des piles d'illustrés dans sa chambre. Donc en fait, ces illustrés, on les lisait, on se les prêtait, on se les échangeait, mais on ne les gardait pas. C'était Je pense pas qu'il y ait eu beaucoup de collectionneurs dans les années 50 de petits formats. Et puis, il m'est arrivé ce qui arrive à beaucoup de nostalgiques. À partir d'un certain âge, on a envie de retrouver les lectures de son enfance. On n'a rien gardé. Moi, je n'avais rien gardé. Donc, je me suis mis à rechercher dès l'âge de 20 ans les petits illustrés que je lisais étant petit. Et la collection a démarré comme ça.
Et puis, tu es devenu libraire?
Au début, j'étais collectionneur. Et puis, à un moment donné, j'ai eu beaucoup de doubles. Et puis, je me suis dit qu'en étant libraire, ça me permettrait d'acheter des collections, des lots, et d'avancer plus rapidement dans mes propres recherches. Donc du coup, je me suis mis libraire, effectivement, et j'ai réussi à concilier à la fois le métier de libraire et la passion du collectionneur.
Et puis après, tu es devenu, on peut le dire, historien hein, de la BD. Tu as voulu faire partager ton enthousiasme, mais aussi tes découvertes à d'autres.
Pour la simple collection, elle a ses limites. À un moment donné, je me suis quand même posé des questions un peu différentes. Comme j'ai dit un jour à Dominique Petitfaux, quand on ouvre un petit format, on est immédiatement face à une énigme. Qui a dessiné cette série? Qui a fait le scénario? En général, il n'y a pas de signature. On n'a pas l'origine des histoires qui est indiquée dans les petits formats. Et donc, je me suis posé des questions sur les origines des séries. Est-ce que c'est italien? Est-ce que c'est anglais? Qui dessine? Qui scénarise? Petit à petit, j'ai eu des réponses à ces questions. Ça m'a pris beaucoup de temps et je continue d'ailleurs toujours à travailler sur ces questions. Je n'ai pas tout résolu. Mais petit à petit, j'ai essayé de résoudre les énigmes des petits formats. Et puis à un moment donné, j'ai eu beaucoup de renseignements et j'ai voulu effectivement les faire partager aux autres amateurs de bande dessinée.
Alors, les faire partager à travers des documents écrits, donc c'est comme cela que tu as mis en chantier tes encyclopédies.
Oui, mon objectif, c'est pour chaque maison d'édition d'essayer de présenter un volume en une ou plusieurs parties consacré à la maison d'édition qui recenserait tous les titres de la maison d'édition et qui pour chaque titre donnerait le contenu. Et donc le but, c'est pour chaque éditeur un volume. Donc j'ai commencé par édition Imperia, j'ai fait édition Lug, j'ai fait édition Pierre Mouchot, et là je m'attaque actuellement à édition Aventure et Voyage.
Alors les éditions Aventures et Voyages, comme on disait,
oui.
C'est-à-dire mon journal.
Oui.
Donc tu as sorti le premier tome, mais il y en aura d'autres, et puis c'est une formule nouvelle par rapport à ce que tu as fait précédemment.
Oui, j'ai essayé, dans les premiers volumes, j'essayais surtout d'insister sur l'aspect documentation théorique, en quelque sorte, et là je concilie à la fois le contenu et les images. Donc j'essaye aussi de présenter beaucoup de couvertures, beaucoup d'illustrations intérieures. Et effectivement, j'ai changé la formule. Je suis devenu, disons entre guillemets, professionnel. Je suis passé par un imprimeur. J'ai fait un bouquin tout en couleur et beaucoup plus détaillé et documenté. Donc effectivement, ça change. Le Mon Journal va être présenté en plusieurs volumes.
Alors ce premier volume de l'histoire des éditions Aventures et Voyages va de 1946 à...
Il va de 1946, des débuts de l'éditeur. En fait, c'était pas encore Aventure Voyage. En 1946, ils éditaient un hebdomadaire qui s'appelait Mon Journal.
Voilà.
Et en fait, les éditions Aventure et Voyage ne sont nées qu'en 1948, deux années plus tard. Et donc, j'ai fait toute cette historique et je me suis arrêté en 1958 parce qu'il fallait que le volume ne dépasse pas 300 pages. Sinon, il aurait coûté trop cher. Donc, je me suis arrêté en 1958 à l'époque du brick petit format. Et donc après, dans le second volume, je repars à partir de 1958 et je continue. J'opte pour un ordre chronologique. Je trouve que c'est plus rigoureux.
Alors, Aventure et Voyage, Mon Journal a été créé par une personne à la forte personnalité, si j'ose dire, Bernadette Ratier.
Oui, les éditeurs de petit format étaient des gens tous de très forte personnalité, tous des gens très compétents, tous des gens qui ont marqué l'histoire de la bande dessinée. Que ce soit Marcel Navarro pour les éditions Lug, qui était une sorte de génie de l'édition, à mon avis. Que ce soit Pierre Mouchot pour édition Schott, qui avait aussi une très forte personnalité. Ou Robert Bagage pour Imperia, qui connaissait aussi bien son métier. Et pareil, Madame Ratier était une dame haute en couleur, la créatrice d'Aventure et Voyage, qui a quand même tenu la maison pendant très très longtemps et qui a mis sur pied une structure très 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 performante. Quand on pense que Hakim ou Swing dépensait à l'époque 200 000 exemplaires tous les mois, et quand on regarde dans les années 90 les tirages des petits formats qui étaient descendus à 4 ou 5 000, on s'aperçoit quand même de la compétence de ces personnes par rapport à celles qui travaillent actuellement dans l'édition.
Alors,
il faut dire aussi que l'époque n'est pas la même.
Deux mots sur le grand journal, sur Mon Journal, donc.
Mon Journal, c'est un hebdomadaire publié à la Libération, qui avait certaines qualités, mais qui a souffert de la concurrence, parce qu'il y avait entre 1946 et 1948 beaucoup de journaux, comme Cocardi, Vaillant et bien d'autres. Et donc la concurrence était très forte, et Madame Ratier a vu que les ventes ne décollaient pas, donc elle a préféré changer sa formule, stopper le journal et passer à la formule récit complet, qui était peut-être à l'époque plus économique et plus rentable.
Alors la période récit complet, c'est à Lyon, cela ?
Oui, c'était à Lyon. Elle s'est associée d'ailleurs avec Marcel Navarro et Auguste Bistel pour créer des récits complets qui étaient tous scénarisés par Marcel Navarro sous le pseudonyme de J.com Elwin Nash. Et donc, il y a quatre titres qui sont sortis. Brick et Yak, qui était dessiné par César, un excellent dessinateur. Et Marco Polo et Diavolo, qui étaient dessinés par d'autres auteurs, mais de bonne qualité également.
Le thème de ces récits complets, c'est de l'aventure.
C'est de l'aventure. Brick, c'est du corsaire, comme le cinéma le montrait par l'intermédiaire d'Errol Flynn, par exemple. Yak, c'est de l'aventure fantastique de genre monde perdu, qui a permis à César de montrer tout son talent en dessinant des peuplades disparues ou inventées. Marco Polo, c'est le personnage historique qu'on connaît, donc le voyage et l'aventure, c'est le cas de le dire. Ouais. Et puis Diavolo, c'est un western, le western qui était très à la mode pendant plusieurs décennies, à la fois au cinéma, dans la bande dessinée. Navarro avait essayé sur ces quatre titres, de balayer tout le panel possible pour essayer d'accrocher le maximum de lecteurs. C'était très bien vu de sa part.
Alors la collaboration entre Bernadette Ratier et Navarro va s'arrêter en 54.
Oui, en fait, Navarro, dès 1950, monte sa propre structure. Il crée avec Auguste Wissel les éditions Aventure et l'édition Lugue, pardon. Pendant quelques années, Navarro va mener de front édition Lugue avec Auguste Wissel et édition Aventure et Voyage avec Auguste Wissel et Madame Ratier. Bon, il peut pas tout faire. Il préfère travailler sur Lugue parce que c'est son bébé. Donc en fait, Navarro reste sur Lyon avec Auguste Wissel. Il arrête Aventure et Voyage. Il m'avait dit à l'époque qu'il avait donné gratuitement ses parts à Madame Ratier. Et Madame Ratier, elle, en 54, elle monte à Paris. Et à ce moment-là, dès 54, les deux maisons sont complètement indépendantes. Alors, concurrentes, mais indépendantes. Et je pense qu'il restait entre eux une bonne relation d'amitié.
C'est là que Bernadette Ratier va créer véritablement Aventures et Voyages.
Oui, Aventure et Voyage, comme je l'ai dit, est écrit en 48, mais disons qu'à partir de 1954, quand elle monte à Paris, là on peut dire que c'est sa maison à elle, elle est seule au Rennes, et c'est elle qui décide de tout. Elle s'est quand même entourée d'une bonne équipe. Oui. Il y avait aux commandes, au niveau rédaction en chef, il y avait Lucienne Fonvieille d'abord, bien que son nom n'apparaisse pas sur les fascicules. Et puis il y a eu ensuite Madame Paretti, qui a fait dont le nom n'apparaît pas, mais qui a fait un super travail au niveau de la rédaction. Et donc là, à partir de 54, Aventure et Voyage décolle. Au départ, c'est assez modeste. Ils ont pas beaucoup de titres. Ils ont Dakota, Totem, Biribu, qui sont pas des gros succès, mais qui lancent, disons, la maison. Et puis en 58, ils ont le flair, la chance, je sais pas, de lancer Hakim. Et Hakim, ça va être un gros succès. C'est un personnage de jungle, ça ressemble un peu à un sous-Tarzan.
Oui.
Mais en fait, Hakim il marche très fort. Et pourquoi ? C'est vrai que beaucoup de gens se posent la question, comment se fait-il qu'Hakim, qui a priori n'est pas très bien dessiné,
voilà,
a priori qui a des scénarios plutôt d'une grande banalité, du moins en première lecture, pourquoi est-ce que Hakim marche si fort ? Il y a au moins une raison pour expliquer ça. C'est qu'en fait, le scénariste d'Hakim a eu une idée, moi que je trouve géniale, dans Hakim les animaux parlent. Et ça reste une BD réaliste. En fait, Hakim connaît le langage des animaux et le scénariste fait parler des animaux avec des bulles, avec un langage normal. C'est étonnant, mais en fait, ça marche très bien. Quand on était gosse, on acceptait cette idée qui est quand même complètement farfelue. Hakim parle avec les animaux, c'est le roi de la jungle. Et en fait, les animaux jouent des rôles aussi importants que les humains. Enfin, par exemple, l'aide principale d'Hakim, c'est un gorille qui s'appelle Kar. Et entre Kar et Hakim, il y a des dialogues comme il en existerait entre Hakim et un être humain. Et ça marche très bien. C'est en fait une dimension supplémentaire, moi, que j'appelle le merveilleux. Le scénariste a fait entrer une part de merveilleux dans Hakim. Et il a réussi son coup. Hakim, c'est un succès phénoménal. C'était bimensuel. Chaque numéro se vendait entre 200 et 300 000 exemplaires. Et ça a duré 756 numéros, un record qui n'a jamais été battu par aucun petit format en France. Donc on peut dire qu'à partir de 1958, Aventure et Voyage a gagné le jackpot. Et ils ont un mérite chez Aventure et Voyage, c'est que quand Hakim s'est arrêté en Italie, ils ont eu le flair de demander aux auteurs de Hakim, c'est-à-dire le dessinateur Pedrazza et le scénariste Renzi, ils ont demandé aux auteurs de créer des épisodes spécialement pour le marché français. Et donc, entre 1967 et 1985, Hakim sort directement pour la France en inédit. Et là, il faut, je pense, féliciter Madame Ratier d'avoir eu cette initiative. De même, d'ailleurs, qu'en France, à une époque, Blake Leroux s'était arrêté aux éditions Luc, et Navarro, pareil, a eu la bonne idée de demander à des auteurs, notamment à Jean-Yves Miton, de dessiner des Blake Leroux inédits pour la France. Et on s'aperçoit finalement que certains personnages s'arrêtant en Italie, au niveau traduction, les éditeurs français, voyant le succès remporté par ces personnages de notre pays, n'ont pas hésité à demander à des auteurs français ou étrangers de prolonger ces personnages pour notre pays. Ce qui fait que quand on décrypte le contenu des petits formats, il faut quand même faire attention à ces problèmes-là.
Oui, donc du matériel anglais, italien, français, espagnol.
Ah bah dans les petits formats, aussi bien chez Aventure et Voyage que chez les autres, on trouve des traductions de différents pays, hein, c'est clair.
Et de grands dessinateurs. Parce
bien
que
sûr.
Souvent, bien sûr, on en a parlé en début de cette interview, il y a un mépris des gens pour les petits formats, mais il y a de très très grands dessinateurs.
Et oui, parce que, bon, on est obligé, quand on s'intéresse à des grands auteurs des années 50-60, qui s'appellent Hugo Pratt, ou qui s'appellent Alberto Breccia, ou d'autres, on est obligé, tôt ou tard, de se plonger dans les petits formats, parce qu'en fait, ces auteurs ont été traduits au départ dans les petits formats. Et donc, si on veut remonter leur début, c'est dans les petits formats qu'on va les découvrir. Et c'est vrai que des fois on a des surprises. Tiens, on se dit tiens, cette série est bien dessinée. Puis comme par hasard, on tombe sur un très bon dessinateur qui est à ses débuts, qui est anonyme bien sûr, ou du moins dont la signature a été gouachée.
Merci Gérard. À suivre.
À suivre.
Cet album, on le trouve où ?
Que chez moi, parce que je n'ai pas la structure éditoriale pour le diffuser autre part. Donc il faut l'acheter via la librairie Fantasmac.
Alors on donnera bien sûr au cours de l'émission l'adresse et le prix de l'album.
Le prix est de 50€ plus les frais de port éventuels pour ceux qui le commandent par correspondance.
Bravo, bon courage pour la suite.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, et cette musique, c'est la musique de Tex Willer. Un film qui s'appelait Le Seigneur des Abysses, et puis j'ai choisi cette musique parce que ça correspondait très bien au petit format, puisque Tex Willer, c'était un personnage de petit format.
Alors il faut dire que cette encyclopédie de Thomasien, elle est vraiment superbe. C'est une machine à voyager dans le temps pour nous. J'ai l'impression d'avoir rajeuni 40 ans d'un seul coup, même de 45 ans, je veux dire, voire plus. C'est splendide. On apprend plein de choses rigolotes. Par exemple, j'ai découvert que Volinsky avait participé à un concours dans les petit format,
étonnant, ça,
c'est drôle, il avait dessiné un chat. et c'est vraiment... c'est une machine à voyager dans le temps, c'est splendide. Il y a autre chose...
Alors je voudrais vous donner l'adresse.
À l'adresse,
même,
oui,
pour
bien
les
sûr.
Hein. Donc c'est le tome 4 de l'encyclopédie Gérard Thomasien des bandes dessinées. Le volume 1 consacré donc aux éditions Aventure et Voyage, il y aura 3 ou 4 tomes. Donc les éditions Fantasmac se trouvent à la librairie Fantasmac, F-A-N... T-A-S-M-A-C,
donc,
M-A-K, pardon, 17 rue de Belzins, c'est près de la gare du Nord.
Tout près du Libre Journal.
Voilà, 75-010 Paris, le téléphone 01 48 78 72 44, et la librairie est ouverte du mardi au samedi de 15h30 à 19h.
Et je vous recommande la visite parce que c'est vraiment...
C'est la caverne
d'Ali Baba de la vraie BD.
Et le prix, c'est 50€.
50 euros.
Voilà.
Et ça les vaut parce que c'est un travail magnifique, tout en couleur, c'est vraiment
super. C'est cartonné, c'est très très bien. Alors, une autre nouvelle rapidement, c'est aussi un gros pavé, parce que là il y a plus de 1000 pages. Hein. C'est le Dico Solo, du nom du dessinateur François Solo, qui a consacré un énorme
excellent
travail.
Dessinateur de caricatures.
À plus de 5000 dessinateurs de presse et 600 supports, et ça va de Daumier, donc au 19e siècle, jusqu'à aujourd'hui. Alors vous avez tous les renseignements sur la vie des dessinateurs, leurs œuvres.
Il y a une notice sur mon camarade Loro.
Voilà.
Regardez, il y a une notice sur Char, sur Ignace.
C'est parfaitement honnête. Il faut dire que Solo n'est pas de nos amis politiques. Hein. Il est comme 99% des personnalités de la BD plutôt de gauche, et le mot est faible. Voilà. Mais il a fait un travail d'une parfaite honnêteté et d'une grande qualité.
Remarquable.
C'est très complet, c'est impeccable.
Alors ça vaut 60€ et c'est édité par AE10. D-I-S, et c'est à Vichy. Je peux vous donner, vous le trouverez dans la, en FNAC. Hein.
Voilà.
Voilà. Monsieur l'abbé.
Dans toutes les bonnes nouvelles, dans quelques mauvaises charcuteries.
Oui. Oui.
J'ai vu le,
je suis quand même surpris de vous trouver, de trouver en vous un amateur de bande dessinée. Ça m'inquiète un peu.
Non, je suis pas, non, mais je l'ai vu.
Je savais que j'étais amateur de Ménose, mais la bande dessinée, j'étais pas au courant.
Comme c'était, c'est du dessin de presse, hein.
C'est du dessin de presse.
Ça m'intéresse.
Ah, pardon,
plus, parce
oui,
que je suis quand même dans la presse. Ouais. Bon, la bande dessinée, c'est pas, ça, c'est la jeunesse. Mais c'est le dessin de presse.
Oui. Voilà.
Bien. Alors,
et puis il y a le festival d'Angoulême, mais ça je vous en reparlerai. C'est bah, toujours la dernière semaine de janvier.
Mon cher Eric, Philippe, Patrick, Guy.
Guy ou Maria, si je prends mon pseudonyme de Maria Puiset.
Marie.
Ça c'est pour trouver les, de tromper l'ennemi. C'était un saint du Nivernais. On en reparlera un autre jour.
Tiens, on m'a parlé dans le, avec les plus grandes, les plus grands éloges de votre bouquin sur Lille.
Ah, faudrait que quelqu'un le réédite. Parce qu'il est complètement
épuisé.
Ben oui, il est épuisé. L'éditeur est décédé.
Et le livre est épuisé.
Le livre est épuisé.
Moi-même, je ne me sens pas très bien.
Bien. Alors, voilà. Je me tourne maintenant vers. Là, on va commencer par Christophe Maillot, parce qu'on va, étant donné qu'on a déjà parlé plusieurs fois de l'organisation de ce congrès. Alors, le congrès sur la laïcité qui est organisé par les cercles de tradition, dont vous êtes le secrétaire général, Christophe Maillot.
Le porte-parole.
Ouais, c'est plus joli que secrétaire général. Porte-parole.
Secrétaire général, ça fait un peu années 20,
30.
Bah
oui, mais chacun les références de sa génération. Hein. Alors donc, où en est la préparation de cet événement ?
Eh bien, cette préparation bat son plein. Nous avons beaucoup d'adhésions au stand, et d'ailleurs, ceux qui le souhaitent encore peuvent, puisqu'il y a de la place à la mutualité pour ce 6 février prochain, peuvent sans aucun problème nous envoyer un bon de participation. Toute association laïque qu'il souhaite peut venir à ce congrès pour présenter soit des bouquins, soit un aspect de l'art, que sais-je encore. Donc, nous avons bien évidemment aujourd'hui un comité de soutien naturellement beaucoup plus étoffé. Nous aurons beaucoup d'auteurs. Je vais me permettre d'en citer quelques-uns. Nous aurons Anne Brassier qui viendra, Émeric Chopra, dont on pourra reparler, qui interviendra à l'occasion de ce congrès. Nous avons Jean-Pierre Diques, nous avons Michel de Gégère, Daniel Amiche, le docteur Nguyen, le Daniel Raffard de Brienne, etc., etc. Donc, nous avançons bien. Tranquillement, nous sommes très heureux de la publicité qui est faite autour de ce congrès, et je ne peux qu'inciter encore une fois nos auditeurs à venir nous rejoindre le 6 février prochain à la mutualité. Le droit d'entrée est de 10 € et pour assister en fait à une série de conférences. Alors vous aurez soit des conférences uniques, soit des tables rondes sur le thème laïcité et chrétienté. Je pense que ce congrès, et on ne le dira jamais assez, est très important parce que les cérémonies officielles sur la laïcité, sur la célébration de la loi de 1905, commencent le 14 février prochain. Donc nous allons commencer tout simplement avant tout le monde. C'est d'autant plus important que la remise en cause de la loi de séparation de l'Église et de l'État commence à faire son chemin. Nous avons eu Monsieur Sarkozy qui, dans son livre sur la religion, appelle à une révision de cette loi de 1905. Et hier, sur Europe 1, nous avons Édouard Balladur qui, tout simplement, va dans le même sens, qui, après avoir fait constat de qu'il y ait tout simplement la deuxième religion de France qui est l'islam, eh bien il pense que l'on doit s'adapter à cette religion et pourquoi pas proposer, comme Monsieur Sarkozy le fait dans son livre, de donner nos églises à l'islam. Donc je pense que ce congrès est très important. Je crois que nous l'avons dit beaucoup à cette antenne, l'Église de France malheureusement rallie l'avis de Monsieur Chirac sur la laïcité, Monsieur Chirac d'ailleurs qui s'oppose à Nicolas Sarkozy et visiblement à Édouard Balladur, et donc cette laïcité, eh bien nous devons nous battre pour imposer nos idées, pour imposer l'idée de chrétienté et pour occuper cette place que ne veut pas occuper l'Église de France.
Alors justement, vous parlez du silence, enfin bon, on ne s'étonne même plus du silence
de l'administration ecclésiale conciliaire en France. Il est devenu de rigueur maintenant. Ils vont probablement nous inviter à déposer des fleurs blanches quelque part dans un futur proche pour célébrer la laïcité. Mais ce qui est curieux, c'est que j'ai eu des échos, des messages de gens me disant « Pourquoi assurez-vous la promotion d'un congrès qui est dirigé contre la fraternité Saint-Pie-X ?» Alors, moi, je voudrais te dire que là, je ne suis pas très intelligent, mais là, vraiment, le peu d'intelligence que j'ai est réduit à l'impuissance, parce que je n'arrive pas à comprendre comment un congrès à propos d'un fait comme la séparation de l'Église et de l'État peut organiser avec le soutien de Mgr Williamson, peut être considéré par par certains fidèles ou par certains fidèles mal informés, je pense, comme une agression contre la...
Eh bien, je ne vais pas pouvoir vous aider, Monsieur Bekech, parce que nous ne comprenons pas ceux qui veulent faire de ce congrès une occasion de division. Notre congrès, bien évidemment, n'a rien à voir avec les dissensions qui agitent la fraternité.
C'est pas un congrès gnostique, ôtez-moi d'un doute.
Absolument pas, absolument.
Non, non, d'accord. Non, mais parce que je me méfie maintenant, parce que vous savez, la bestiole est dangereuse. Hein.
Alors,
c'est pas gnostique, donc c'est bien clair. D'ailleurs, c'est catholique.
C'est bien catholique. C'est un congrès catholique, et d'ailleurs, c'est parce que c'est un congrès catholique visant à lutter contre la laïcité que Mgr Williamson a fait un appel de participation à ce congrès. Cet appel, Monsieur de Beckett, vous le savez, a été lu la semaine dernière. Je pense qu'il est important de le répéter.
Oui, moi j'aimerais bien que vous le relisiez, parce que je voudrais savoir s'il y a dedans quelque chose que je n'ai pas compris la dernière fois. J'ai eu l'impression que c'était un appel en faveur. Donc je crois que nos auditeurs, enfin certains de nos auditeurs, ont probablement mal compris, parce que Mgr Williamson, c'est un des...
Un des quatre évêques, donc, qui a été consacré par Mgr Lefebvre en 1988. Mgr Williamson est actuellement supérieur du séminaire international Notre-Dame Corrédemptrice, donc séminaire de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Et Mgr Williamson nous a donné cette lettre en insistant profondément sur son union avec les autorités de la fraternité Saint-Pie-X. Cet appel, je vais vous le lire, je vais le lire à la suite de ce qui a été lu la semaine dernière. « Bien chers amis français, votre pays célèbre cette année le centenaire de la loi Combes, par laquelle en 1905, l'État français sans foi s'est séparé officiellement de l'Église catholique. » La punition divine de cette apostasie nationale ne s'est pas fait attendre. Deux guerres mondiales qui ont éventré la douce France et frayé les voies à cette hécatombe de la foi que déclencha le second concile du Vatican. La punition, cette fois-ci, semble être la réunion effective de l'Église et de l'État français, mais contre la foi. Et la France, étant fille aînée de l'Église et lucarne du monde, c'est toute l'Église qui en souffre, et le monde entier qui est enténébré. Français, que ce centenaire et ce congrès servent à vous rappeler l'unique remède, celui du pape Pie-X en 1905, l'affirmation sans compromis de la pure foi catholique à la face de l'État et aujourd'hui de l'Église aussi, affirmation seule capable de sauver et l'État et l'Église. Chers Français, les catholiques du monde entier comptent sur vous, profitez de ce congrès pour nous montrer à tous comment relever l'étendard de la foi.
Bah donc ça, c'est absolument sans ambiguïté.
C'est signé Mgr Richard Williamson. Il a écrit ce texte le 24 décembre, donc la veille de Noël. Donc alors, cet appel est maintenu, c'est d'une évidence, c'est d'une clarté biblique.
Le fait que, apparemment, le fait de certaines rumeurs qui courent dans parmi les fidèles, l'existence de ces rumeurs a amené Mgr Williamson à préciser qu'il n'entendait pas, si j'ai bien compris, que son appel soit mal interprété, soit interprété comme un argument, comme une tentative de...
Je vous demande, il a écrit le texte que je vais lire au supérieur du district de France, l'abbé de Cacré.
Vu les circonstances présentes de votre district, il me semble nécessaire de faire ce que je peux pour empêcher toute interprétation indue de mes paroles et actions. Je vous demande en conséquence de communiquer à qui de droit que je n'autorise personne à utiliser mon nom pour soutenir des procédés qui soient de nature apte à nuire aux intérêts de notre fraternité Saint-Pilis et à ses supérieurs.
Ah oui, mais ça...
Apparemment,
enfin, ça n'a rien à dire.
Non, exactement.
Il est tout à fait normal que Mgr Williamson n'autorise personne à utiliser ses propos en vue de nuire à la fraternité, mais ceux qui prétendent que cette déclaration de Mgr Williamson viserait l'organisation du Congrès, il faudra qu'il nous explique comment ça fonctionne, parce qu'intellectuellement, c'est indéfendable comme position.
Je vais me répéter, Mgr Williamson nous a donné cette lettre, cet appel, en insistant profondément sur son union avec la fraternité sacerdotale Saint-Pilis.
Voilà, donc c'est bien clair que vous confirmez de la façon la plus radicale et de la plus formelle que ce congrès n'est en aucun cas dirigé contre les dirigeants actuels de la fraternité, ni la fraternité elle-même, dont vous êtes membre.
Écoutez, monsieur de Beketch, nous serions très heureux, bien évidemment, d'accueillir d'autres prêtres et d'autres évêques de la fraternité sacerdotale Saint-Pilis, et je demande à l'abbé de Cacré de venir à ce congrès qui doit viser la laïcité. Et d'ailleurs, il dit cette utilité d'un colloque sur le centenaire de la loi de 1905. Il dit publiquement cette utilité. Oui, nous devons d'être présents.
Bien sûr. Bon, alors donc rappelons maintenant comment ça se passe, où, comment on peut réserver sa place.
Alors, donc le congrès, je répète la date, a lieu le 6 février prochain à la Mutualité. Il commencera à 10h, le droit d'entrée est de 10€. Toutes les personnes qui souhaitent adhérer au cercle de tradition, qu'il n'hésite pas à le faire, qu'il nous envoie un chèque 24 rue Saint-Paul, 75 004, Paris. Je donne le téléphone 01 48 28 33 62, 24 rue Saint-Paul, 75 004, Paris, 01 48 28 33 62. L'adhésion au cercle de tradition est de 15€, mais bien évidemment, toute personne qui souhaite donner de l'argent, qu'elle n'hésite pas, hein, comme toutes nos associations, il est toujours difficile de vivre, et je crois que tout don sera bien évidemment le bienvenu.
Merci beaucoup, Christophe Mailleux, vous reviendrez, parce que vous savez que bis repetita place sainte, c'est comme ça qu'on dit. Il n'y a pas des latinistes parmi nous ? Non, si, c'est ça, on dit.
C'est exact.
Repetita place sainte.
Les pages rouges.
Alors, autant qu'on repetita, autant que ça place sainte encore plus. Merci à, peut-être pas la semaine prochaine, mais à la semaine suivante, parce que moi je ne serai pas là. Je ne sais pas si vous avez passé un deal, comme on dit, avec Amish. Qu'est-ce que tu veux, Victoria ?
Vas-y, ma copine. Demande si Jean Madiran fera partie des orateurs le 6 février.
Écoutez, la liste... Jean Madiran ne fera pas partie des orateurs le 6 février. Je n'ai pas cité d'orateur, mais je vais m'empresser de le faire.
Corriger cette erreur grave.
Nous aurons... en fait, l'ouverture du congrès va se faire sur quelques images, sur le film Jeanne d'Arc de Jacques Rivette. Parce que nous pensons que Jeanne est le symbole de cette chrétienté qui est bien loin de la situation actuelle de notre pays. L'ouverture du congrès se fera avec Yves Amiot, la loi de 1905, point d'orgue de l'anticléricalisme républicain. Nous aurons un débat sur l'égalité des religions avec plusieurs personnes, Daniel Amiche, Claude Barthes, Serge de Beketch, Olivier Pichon. Michel de Gégère fera une enquête sur la christianophobie contemporaine. Paul-Marie Couteau, lui, viendra parler du club antichrétien qu'est l'Europe actuelle. Et nous aurons naturellement un débat sur l'islam et le choc des civilisations, à savoir ce choc des civilisations est-il inévitable, autour du géopoliticien Aymeric Chauprade et de l'historien Philippe Conrad.
Très bien, je vous remercie. Monsieur Wouters, puisqu'on est en train d'annoncer des manifestations, je vous invite à prendre place à ce micro et à nous annoncer la manifestation pour laquelle vous êtes venu.
Merci Serge de Beketch. Voilà, est-ce que je peux dire quelques petits mots préliminaires ?
écoutez, est-ce que j'ai les moyens physiques de vous en empêcher? C'est ça la question.
Vous êtes en nombre supérieur.
Oui, mais ils sont pas avec
mais
moi.
Avec
c'est des prêtres. Qu'est-ce que vous voulez que je les utilise à des fins violentes? C'est impossible. Ils n'ont pas le droit de taper.
Voilà, je vais simplement vous dire en quelques mots l'ampleur qu'a pris la culture de mort depuis 30 ans. Avec trois éléments. Le premier, c'est en France, aujourd'hui, au 21e siècle, des mères de famille qui se promènent dans la rue avec une poussette et deux bambins à la main, qui se tiennent la main, ou parfois il y a des poussettes même jumelles, eh bien se font cracher dessus. Et on leur dit, la pilule, ça existe. Ils se font cracher dessus. Et je n'avais pas cru cette information. C'est un de nos adhérents, médecin à Rennes, qui me l'a confirmé. Premier point. Deuxième point, vous vous souvenez peut-être de cette affaire Marie-Léonie Leblanc. On a beaucoup parlé, on parle de cette affaire sous le nom de l'affaire de Garges-Lagonnès. Alors, de quoi s'agit-il? Une jeune femme, peut-être pas très équilibrée, qui, bon, a besoin qu'on parle d'elle. Alors, on pourrait parler d'elle. On pourrait parler d'une jeune femme de 23 ans, une jeune maman qui se promène avec son bébé en bas âge de 2 ans et qui se fait agresser. Ça devrait être suffisant. Non. Elle sent bien que ça n'intéresserait personne. Donc elle invente quelque chose qui n'a rien à voir d'une agression raciste avec des loubards antisémites, etc. Parce que une mère de famille qui se fait agresser en 2004 dans le train, dans un train de banlieue, ça n'intéresse personne. Un bébé qui pourrait avoir sa vie en danger, non, ça n'intéresse personne. Voilà. Et le troisième point, je voulais quand même rappeler l'ampleur du massacre. L'ampleur du massacre, ça se mesure au fait qu'on ne sait pas exactement à 1 million de près combien il y a eu de victimes. C'est pas mal. On parle de 152 000 morts. C'est énorme, bien sûr, c'est considérable. Mais là, je vous laisse faire le calcul, le rapport.
Non, mais là, on est, hein, là, on
c'est
est dans
6 000. On ne sait même pas le nombre de victimes qu'il y a eu depuis 30 ans. On ne sait même pas le nombre.
On est dans le cœur de la grimace satanique, puisque, d'une part, on va envoyer des millions d'euros. Les Français envoient des millions d'euros à Sumatra pour aider. Il y a 50 000 enfants, apparemment, qui sont morts là-bas, ce qui est terrible, ça, puisqu'on dit un tiers d'enfants sur les 150 000. Donc, disons, une cinquantaine de milliers d'enfants qui sont morts, et c'est vraiment, c'est une tragédie épouvantable. Mais ça n'est jamais que le cinquième de la tragédie qui, tous les ans, frappe en France 250 000 enfants sacrifiés parce que les gens ne veulent plus avoir d'enfants. Et si on disait aux Français, vous allez donner des millions d'euros pour que les femmes françaises puissent avoir des enfants de nouveau et ne pas recourir à l'avortement, eh bien, ils pousseraient des hurlements. Alors, on est bien dans l'espèce de grimace satanique.
On nous donne ces enfants, moi, dans mon
salon. Oui, voilà, bien sûr.
On parlait de la crèche. Nous sommes prêts à offrir une crèche à Riomont si on nous donne ces enfants.
Vous avez des milliers de gens qui veulent adopter. Moi, j'ai des amis qui sont qui viennent d'adopter un enfant. Ils ont été obligés d'attendre, je ne sais pas combien, 4 ans pour arriver à adopter un enfant en Bulgarie. Bon, je suis très content qu'ils aient pu sauver un enfant bulgare de la misère. Mais en France, on ne peut pas adopter des enfants. On préfère les tuer. Donc, on est vraiment dans la folie furieuse. Voilà.
Alors, par contre, mon père, monsieur l'abbé, j'ai une bonne nouvelle. C'est un scoop. Le jour de la Toussaint 2005 restera férié. Et je vous laisse deviner pourquoi. Parce que ça n'est pas évidemment pour promouvoir le jour de la fête des saints. Eh bien non, c'est parce que le 1er novembre 2004, l'ours cannelle est morte. Et donc, monsieur le président de la République l'a affirmé dès le jour des morts, le 2 novembre. Il a fait un communiqué absolument merveilleux en insistant sur la catastrophe pour la biodiversité que constituait donc le meurtre de ce... Alors on ne dira pas sans doute l'année prochaine, parce que vous savez que aux actualités télévisées on ne dit pas aujourd'hui c'est la Saint-Guillaume, comme on dirait c'est la Saint-Hilaire, on dit nous fêterons les Hilaires. Alors l'année prochaine on ne fêtera pas la Saint-Cannelle le 1er novembre, mais on dira aujourd'hui nous fêtons les cannelles, et voilà, et ce sera sans doute un jour de deuil national,
un jour de deuil national.
Alors je voulais simplement terminer en disant que beaucoup de gens se disent, mais mon pauvre monsieur, dans ce cas là qu'est-ce que vous faites là, puisqu'il n'y a plus rien à faire, la France est perdue, etc. Eh bien, je crois que le fait d'être plusieurs milliers, et j'insiste sur le fait qu'on sera sans doute 5 à 10 000, ce qui est déjà beaucoup, hors défense des intérêts catégoriels, ça on en voit tous les jours, parce que mettre 50 000 cheminots ou 500 000 enseignants dans la rue, c'est finalement pas très difficile, puisque finalement d'abord leurs jours seront payés pour cela, tôt ou tard, et puis je dirais, il s'agit simplement de leur défense, d'intérêts propres de leur catégorie, donc ça c'est relativement facile. Par contre, sur des sujets dits de société, sur des sujets importants sur l'avenir de la France, qui ne concernent pas la vie quotidienne des gens, leur compte bancaire, leurs loisirs, etc., eh bien finalement quelques milliers de personnes, c'est déjà pas si mal, et je crois même que ça ennuie quand même relativement le gouvernement qu'on puisse oser rappeler tous les jours, et je voudrais pas citer de nom, parce que on cite des noms, c'est vrai, on a tendance à dire la loi, c'est la loi machin, c'est la loi, mais malheureusement ces gens-là commencent à disparaître maintenant, ils sont âgés, mais malheureusement la loi reste, donc je voudrais pas qu'on s'acharne sur des personnes, parce que finalement ça n'a pas d'intérêt, parce qu'on dira le jour où Madame Intel sera morte, et finalement la loi elle continuera. Alors par contre, je crois que c'est très important de se dire que le fait que nous survivions, que nous puissions être des milliers, parents, enfants, à dire non à la poursuite de ce massacre, je crois que c'est essentiel. Alors, sur les points pratiques, vous le savez, je crois qu'on en a beaucoup parlé, mais je le rappelle quand même, donc dimanche 23 novembre... Excusez-moi.
Oui, janvier plutôt.
23 janvier, non, parce que j'ai... Bon, dimanche 23 janvier 2005, bien sûr. Place de l'Opéra à 14h30. Vous retrouvez toutes les informations sur le site Laissez-les-vivre. C'est un site HTTP, je le précise. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai appris il y a déjà un petit moment qu'il y avait deux sortes de sites. Il y a les sites www, qui sont les plus nombreux. Mais il y a aussi les sites HTTP, alors deux points, /, laissez-les-vivre, sans espace ni ponctuation, .free.fr. Il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas encore Internet,
oui, alors qu'on a un téléphone. À peu près 55 millions.
Je crois qu'il y a beaucoup de gens, où il y a des gens comme moi qui ne savent pas trop se servir de l'ordinateur. Donc 01 48 78 21 64. 01 48 78 21 64. Alors, pour ceux qui savent se servir de l'ordinateur, laissez les lignes téléphoniques libres pour ceux qui ne savent pas. Nous avons essayé, fait un effort d'unité en rassemblant donc un nombre important d'associations, une douzaine d'associations nationales, plus de très nombreuses coordinations et associations locales, des coordinations d'étudiants, des coordinations départementales ou régionales. Bien sûr, vous retrouverez aussi des associations qui ont souvent, relativement souvent, là, mais je ne le critique pas, bien au contraire, la parole à votre micro, Serge Bekech, donc comme SOS Tout Petit ou Renaissance Catholique. Il y a aussi d'autres associations, je n'ai peut-être pas le temps de les citer, si, en un instant, bien sûr. Donc AOCPA Choisir la Vie, Association des Chrétiens Protestants Évangéliques pour le Respect de la Vie, ACPERVI, Comité pour Sauver l'Enfant à Naître, Fédération Orgavi, bien sûr, donc Laissez-les Vivre, SOS Future Mère, Promouvoir, La Trêve de Dieu, donc Renaissance Catholique, Rivage et SOS Tout Petit. Voilà. Et il y a aussi beaucoup de coordinations locales, d'étudiants, des coordinations qui sont spontanées. Il y a des mouvements très importants, il y a des cars qui viendront de Nantes et de Lyon. Et donc je crois que cette manifestation termine de se préparer relativement bien.
23 janvier.
Ça fait un an qu'on la prépare, hein. Ça n'a pas été toujours très facile. 23 janvier, dimanche 23 janvier, 14h30. Alors j'insiste, il y a aussi, je sais, d'autres cérémonies, mais les personnes peuvent venir peut-être avant, surtout que la Concorde, c'est pas très loin. Hein, donc ils peuvent venir avant, ils peuvent venir à 14h30 à l'Opéra. Ils peuvent après nous rejoindre à 17h ou 17h30 au Palais Royal. Et ceux qui ont d'autres manifestations, on l'a fait exprès bien sûr le dimanche après-midi, parce que beaucoup de gens travaillent le samedi. Le dimanche matin, les gens peuvent aller à la messe normalement. Ils peuvent aussi très bien aller. Il y a de très belles messes à Paris à 18h ou 18h30. Hein, après la manifestation, donc même ceux qui peuvent pas, qui sont un petit peu parfois qui font la grasse matinée comme moi le dimanche matin, peuvent très bien aller à la messe à l'issue de la manifestation. Donc je crois. Et puis la sieste, le petit dernier qui fait sa sieste, ce jour-là, il fera pas de sieste, voilà, et il dormira d'autant plus tôt le soir. Voilà.
Donc, 14h.
14h30. 30, place de l'Opéra.
Janvier, place de
je
l'Opéra.
Me permets de rappeler le site Laissez-les vivre, donc c'est un site HTTP.
Il y a un truc beaucoup plus simple que tous ces oui. sigles extrêmement compliqués. Vous allez sur google.fr,
oui,
qui est un moteur de recherche, g2ogle.fr. Vous faites donc google.fr, le site s'ouvre, dans la petite fenêtre recherchée, vous tapez, ouvrez les guillemets, laissez-les vivre, fermez les guillemets.
Sans espace ni ponctuation, oui, tout à fait, et vous tombez tout de suite sur le site officiel, laissez-les vivre, effectivement, c'est beaucoup plus facile, vous avez raison.
Merci monsieur Wouter, et bah dimanche, parce qu'on va sillonner Paris, on va être obligé, vous comprenez, avec les messes, les machins, les manifestations, les...
La messe à la chapelle expiatoire.
La chapelle expiatoire, on n'en finit plus. Bien, alors maintenant, bah, tiens, puisque vous avez pris la parole, je vous la laisse, monsieur le supérieur, non, monsieur le directeur, voilà, c'est ça que je veux dire, merci. Monsieur le directeur du village de Riaumont. Donc, vous, bah, donnez-nous des nouvelles de ce village, parce que ça fait très longtemps, au moins, je sais pas, une semaine qu'on n'en a pas parlé.
Avec vous, mais ça fait longtemps que je suis pas venu à Radio Courtoisie, je crois.
Bon.
Les nouvelles sont...
Où ça va ? Comment ça va ?
D'abord, les nouvelles sont très bonnes. Bon. Vous savez que Riaumont, on a des défaites, mais on a aussi des victoires. C'est vraiment le combat entre la lumière et les ténèbres. Il y a des moments, je viens, je pars en croisade, c'est le combat, tout est fichu, il faut se lever en masse, on a besoin de milliers de personnes sur la colline en cas de coup dur. Et puis là, il y a le bon Dieu est bon. Il y a des moments de grâce, il y a du calme. Alors ça nous permet de recevoir le bâtiment.
Je vous dis pas toucher du bois parce que ça serait non, vraiment malvenu.
Si, dites-le, c'est le bois de la croix.
Oui, c'est celui-là.
Si,
oui.
Celui-là, on l'embrasse. Oui, si vous avez raison, on touche le bois de la croix. Et ça m'est venu comme ça. C'est peut-être le Saint-Esprit, je sais pas. Alors c'est vrai, vous connaissez cet énorme bâtiment de Godefroy de Bouillon.
Oui.
Parce que Godefroy de Bouillon est venu à Lens, qui avait un château formidable avec Renaud II de Lens.
Napoléon, il est allé partout, donc il n'y a pas de danger.
Et c'est pourquoi que le premier foyer de Riaumont à Lens s'est appelé le foyer Godefroy de Bouillon. Et donc ça a continué à Riaumont. Le village de Riaumont est venu après parce qu'on avait plusieurs bâtiments. Il y a eu Beaumanoir, il y a eu Les Cèdres, et l'ensemble des foyers, quand on était appuyé par l'État, c'était quand même extraordinaire puisqu'on était jusque 180 garçons. Alors, sécurité, commission de sécurité, représentants de la préfecture, police, tout le monde était là pour la réception du bâtiment. Et le bâtiment, est, ça y est, il est reçu, il est habilité à recevoir des enfants, on peut faire dormir des enfants, toutes les salles sont habilitées. C'est une très grande victoire pour nous, parce que ça fait des années qu'on était poursuivis pour ce bâtiment. Jusqu'au point où on pouvait craindre la fermeture de Riaumont à un moment. Alors ça, c'est une très grande victoire. Deuxième grande victoire, le marché de Noël a été habilité. L'année dernière, le maire m'avait dit, vous le ferez sous votre seule responsabilité. Je m'engage pas là-dedans. Cette année, cette fois, ça y est, le marché de Noël, il y avait quand même presque 2000 personnes, est habilité. Et maintenant, on attaque les deux autres bâtiments au niveau sécurité, l'école et le bâtiment des Cèdres, qu'on a baptisé Baudouin IV de Jérusalem parce que on est en train de lui rendre une âme. C'est un bâtiment qui a été fait par l'État, donc il n'y avait aucune âme, une sorte de HLM qui a été fait, habilité et financé par l'État. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas faire grand-chose, on aurait pu faire des pavillons magnifiques. Et on attaque, bien sûr, les alarmes, les portes anti-feu, les sas.
C'est dans ce bâtiment qu'il y avait des portes, les chambres avaient des portes qui donnaient directement sur le jardin et on vous a obligé à les fermer pour...
C'est à Godefroy de Bouillon, mais c'est grâce à ce couloir, ce balcon, qu'on a pu, pour l'instant, conserver les lambris. D'accord. Parce que c'était trop, il y avait trop de sécurité à Riaumont, c'était pas dans les règles. Et donc il y avait trop de sorties. Donc ils ne comprenaient pas. On était en avance.
Il n'y a aucune chance d'avoir un accident.
Mais c'était embêtant parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir tant de sorties. Donc grâce à ça, on a négocié les plaquages en bois. Et voilà, on a passé un petit produit dessus, je crois. Bon, pour l'instant, ça va. Ouais. Jusqu'à la prochaine fois. Donc très bonne nouvelle. La maison d'enfants marche bien.
Bah, tout va bien alors.
L'église, non. Gros pépin, parce que le diable s'est attaqué à l'église. Ben, l'abbé sait que les églises, c'est pas facile à faire. Et notre maçon, monsieur Repars, qui est tailleur de pierre et qui habite du côté de Laval, eh bien, il y a quelques jours, est tombé. Il a fait une chute de 4 mètres. Il y avait une souche. Il faut que les gens visualisent aussi cette vie de Riaumont qui est faite d'images. Tout à l'heure, on parlait de la bande dessinée. C'est vrai que ce sont des images qui sont quelquefois très fortes et un combat gigantesque à certains moments pour le petit village. Alors, ce brave monsieur Repars que tout le monde connaît, qui est vraiment un artiste, il a acheté une énorme souche et
cette souche avait une sorte de bras par derrière, comme la main du diable, qui l'a entraîné dans sa chute. Alors il est tombé de 4 mètres. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, miraculeusement, il a fait un salto. Il est tombé sur sa jambe. Il est cassé de partout avec des...
C'est ça que vous appelez miraculeusement? C'est vraiment...
Ah ben, le salto, c'est l'ange qui l'a fait. Parce que c'est son petit garçon qui le regardait, qui lui a dit, mais tu sais, papa, tu as fait un salto. Alors, pendant ce temps-là, ben, le bon Dieu, les anges et tous les saints, ils sont pas restés à rien faire. C'est-à-dire qu'on ne savait pas trop, on ne savait pas ce qui allait se passer. Et on a embauché, en même temps, alors qu'on avait pratiquement pas beaucoup d'argent, 2 maçons. Donc, il y a un maçon qui part, mais le combat continue, il y a 2 maçons qui arrivent.
Eux aussi, c'est des Français de souche?
Oui. Le nôtre est d'origine Salvatore, d'origine italienne. Et puis, il y a 2 autres maçons de souche, bien sûr, qui arrivent. Voilà. Et voilà, donc, l'église continue. Le premier clocher va être habillé de pierre. Monsieur Piron, notre ébéniste qui travaille dans l'esprit des compagnons, a placé une énorme charpente en poutre qui est un assemblage de bois unique avec un plan qui est spécial Riomont. Et puis, bien sûr, je vous parlerai quelques minutes quand même du village breton.
Ah, mais vous avez, je voudrais rester sur Riomont un instant parce que il y a aussi une histoire de... On peut raconter l'histoire des 50 millions de tonnes de pavés que vous avez récupérés encore?
Ah, non, je sais pas du tout ce qui se passe. C'est que on a reçu 1400 tonnes de pavés. Et puis, on trouvait que c'était pas assez parce qu'on mange du pavé, mais pas comme un dragon mangerait du pavé.
Oui, mon fils qui séjournait chez vous me disait que c'était, sur le plan de la nourriture, c'était pas terrible.
Non, mais oui, mais parce que pour nous, c'est les pavés, c'est des pierres vivantes. C'est vrai qu'on s'occupe beaucoup de la maison du Seigneur. Et Dieu premier servi, et puis le reste sera donné par surcroît.
J'espère que vous ne servez pas des pavés quand même.
Ben si, pratiquement, il y a eu une Saint-Nicolas où on a fait comme cadeau au Père Revet, là, notre cuisinière qui était déguisée en Obélix, est arrivée au milieu de 150 enfants et tous les éducateurs pour remettre solennellement un pavé au Père Revet sous les hurrahs des garçons. C'était fantastique, c'est une scène d'anthologie, c'est formidable, ce mythe du pavé. Mythe de la pierre. Et alors c'est vrai que donc on disait est-ce qu'on va commencer le deuxième clocher avec les pavés parce qu'on a que 1400 tonnes.
Ah ouais,
c'est embêté. Sans compter les bordures de trottoir, tout ce qui est arrivé, je dis pas par qui, mais bon.
Par hasard,
la providence. Et donc un des frères qui était là, au cours de la discussion avec architectes, etc., et tous les gens du métier, je dirais des corporations, parce que c'est on est dans cet esprit des corporations, eh bien dit mais j'en ai mis 100 000 ou 50 ou 100 000 de côté dans un coin. Ne vous inquiétez pas, j'en mets de côté. Ils arrivent, ils sont mis en réserve. Donc c'est vrai que ça nous a fait quelque chose quand on a su que le phare Olivier nous avait même pas dit qu'il avait mis des milliers de pavés de côté.
Mais oui, il les a planqués dans sa chambre, enfin, dans un endroit secret. Quoi.
Non, mais c'est en région parisienne, il faut encore les amener. Il y a un tas de gens qui s'occupent de nous, et surtout, vraiment, et l'action de la Providence, ça c'est sûr.
Alors le Guerveur maintenant, racontez-nous un peu le Guerveur.
Alors le Guerveur, le village breton, on est en train de préparer une grande campagne pour sauver le Guerveur, donc tout le village, pour le restaurer. Là aussi, faire une chapelle et puis rendre ce village tel qu'il était. Donc on a évoqué, je vous en ai parlé, ce garçon de 15 ans.
Oui, vous avez retrouvé quelqu'un qui avait habité ce village. C'est quand même formidable. Et
pratiquement mot pour mot, l'article que je vous ai montré, c'est une évocation de ce garçon qui a vécu là et tout simplement dans les fermes et qui était sur un énorme trait breton et qui poursuivait chevreuils et sangliers et mais il vivait simplement du cidre, tout simplement. Il y avait des pommiers. Ouais. Et puis,
il a fait un joli petit texte. Hein, et où il raconte comment il a été quand il était gamin. Il vivait dans ce hameau où il y avait quatre maisons qui se battaient en duel. Quoi.
Et un jour,
il est parti. Et puis quand il est
alors le manoir a brûlé, tout est terminé. Et effectivement,
et quand il est revenu, il a découvert que le village commençait à...
Il y avait encore quelques moutons parce que la dame qui avait encore le village et qui lui appartenait, elle avait mis quelques moutons. Donc quand il a vu ces moutons, il a dit ça revit. Mais les moutons, c'était au milieu de ferrailles, de vieilles jeeps américaines, etc. Il fallait quand même que les scouts de Riomont passent pour faire du nettoyage et rendre ce site remarquable qui est tout près de l'Orient. Et où Saint-Vincent est sûrement passé, parce que il est passé à une bombe.
Godefroy de Bouillon.
Donc c'est impossible qu'il soit pas passé à Plouet. Et cette chapelle Saint-Vincent, les pardons vont prendre de l'extension.
Où en sont les travaux maintenant?
Alors j'ai vu Gaston, notre gardien, que beaucoup connaissent. Ceux qui m'écoutent savent très bien que Gaston est parti là-bas pour garder le village, parce qu'il y a des vols de pierres terribles, parce que les pierres, c'est toujours les pierres.
C'est pas des pavés.
On cherche à voler les voûtes, à voler des puits. Ces puits bretons qui partent en Belgique, qui sont revendus quelquefois très loin, donc il faut un gardien. Et puis alors il va très bien, il a sa petite entreprise. On demande toujours des bénévoles, surtout au printemps, surtout pour couper du bois, parce qu'avec toutes les tempêtes, le bois, eh bien c'est bien pour les scouts, pour les grands jeux, mais ça pourrit, ça empêche d'autres petites plantations d'apparaître, ça pourrit. Il faut des gens avec des tronçonneuses, avec des pantalons bien en sécurité pour nous aider. Et puis financièrement, donc je fais cette plaquette et on pourra verser aux scouts et guides de Riomont ce qu'il faut. Je remercie ici encore le Secours de France, qui a été sensationnel, parce que quand j'ai dit que ce village c'était fait pour la jeunesse de France, parce qu'il n'y a pas que Riomont qui ira là-bas, on recevra par exemple à Pâques des Europa Scouts, eh bien ceux qui veulent venir travailler à l'édification de ce village, et quelquefois ce sont des garçons ou des filles qui ne sont pas scouts, qui veulent venir travailler tout simplement, parce que ce sera, on a parlé de la chrétienté, du village de chrétienté. J'étais frappé dans ce qu'on disait tout à l'heure sur ce congrès de remarquer combien c'est dans l'octave de l'épiphanie qu'on a remis cette question de 1905, alors que l'épiphanie est une première fête du Christ roi, une fête royale, comme si ce combat était encore plus aigu actuellement de la lumière et des ténèbres. Et on se rappelle avec nostalgie de nos rois à l'offertoire, déposant leur couronne et apportant l'or, l'encens et la myrrhe au roi des rois. Ça, c'était quand même un signe qu'un Chirac est bien incapable de faire, d'abord parce qu'il n'a pas de couronne, et puis parce que l'or, l'encens et la myrrhe, il n'en connaît pas la signification, bien sûr.
L'or, il doit quand même un peu savoir ce que,
oui.
À mon avis...
Mais l'or, pour nous, c'est la foi la plus pure, c'est l'intégrité de la foi, c'est ce credo écrit par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec son propre sang, c'est ça, bien sûr, Serge, mais c'est comme ça, et le combat sera de plus en plus apocalyptique quand on entendu l'histoire de la vague, c'est vrai que ça sera terrible. Ouais.
Alors, justement, si après les versements de larmes et de fonds qu'a suscité le raz-de-marée du sud-est du sud-asiatique, il reste un peu dessous, on peut peut-être l'envoyer aux enfants de Riomont qui eux aussi.
C'est-à-dire qu'il faut continuer, bien sûr, l'abbé le sait, il y a tellement d'œuvres, il y a énormément de choses. Les gens de notre famille de pensée sont tellement sollicités, tellement. Alors que certains disent, mais je sais plus où donner, etc. Ouais. Bon. Ben, ils donnent un petit peu selon leur goût aussi, hein. Mais
c'est ça, il faut donner selon ses affinités.
Voilà, c'est ça.
C'est la vraie solution.
Mais quelquefois, ce que je dis toujours, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et pour nous, continuer à envoyer à Riomont, en tout cas, ça sert. Ça sert pas pour autre chose. Ça sert pour les enfants. Ça sert pour l'Église du Bon Dieu et ça sert pour le graveur.
Alors il y a plusieurs adresses quand même. Il faut donner. Il y a plusieurs façons. On peut donner soit pour le graveur, soit parce que si on envoie en vrac.
Notre-Dame de Riomont, la maison d'enfants.
Voilà, c'est tout.
Sainte-Croix, la croix. Sainte-Croix de Riomont, l'église.
Ouais,
et une grosse somme en passant par la fondation des monastères, mais on indique comment il faut faire. Et puis, le Gerveur, scout et guide de Riomont. C'est tout simple.
Voilà.
J'ai une question pour le père Argouache.
Oui,
mon père, est-ce qu'il est possible de verser la taxe d'apprentissage à l'œuvre de Riomont?
Ah, c'est une croix supplémentaire que vous venez de m'asséner.
On va arriver bientôt à la période, je crois que c'est vers le 28 février.
C'est la question qui me tue à chaque fois, parce que ça fait depuis la mort du père Revet que j'essaie d'habiliter Riomont et d'avoir une école technique habilitée à recevoir les taxes d'apprentissage, puisque beaucoup d'écoles...
J'étais presque arrivé, hein.
Oui.
Avec la menuiserie. Hein.
Oui, je le redis, on lui dira au maire de Liévin, depuis que le maire de Liévin a exercé son droit de préemption sur le bâtiment que je voulais prendre, qui est à côté de chez moi, je lui ai dit d'ailleurs, ça s'est pas très bien passé, mais il a fait une sorte d'école de théâtre, là, et puis maintenant c'est terminé, c'est une école de lutte, et puis entre deux, il n'y a rien, voilà. Alors nous, on ne sait pas comment on va faire.
L'objectif, c'était quand même de vous empêcher de le prendre, justement,
absolument.
Parce que ça vous aurait permis
d'autant
de créer...
D'autant plus qu'il y a aucune école libre sur Liévin. Ouais. Et là, le principe de laïcité, alors là, c'est un principe sacro-saint. Voilà. De la ville de...
Je préfère avoir des chômeurs qui...
De Guévin. À Lens, il y a encore la petite école Sacré-Cœur Sainte-Thérèse. Mais là, alors pensez, une école technique catholique. Si nous supposons qu'on ait eu cette devanture sur la rue, on aurait mis école technique catholique. Mais pour ceux qui...
Vous croyez quand même pas qu'un maire socialiste franc-maçon va vous donner les moyens de faire une église catholique qui va fabriquer des électeurs contre lui? Non, il est pas fou, le gars.
Enfin, bref, ça n'empêche pas qu'on se rencontre et que... J'espère qu'on arrivera à un compromis un jour, parce qu'il faut absolument qu'on en sorte.
Compromis, chose due, bien sûr.
Et Riomont, je le redis, parce qu'à chaque fois, les ennemis disent, mais Riomont, c'est privé. Non, Riomont n'est pas privé. Riomont reçoit du public. Riomont reçoit des grandes fêtes comme les Feux de la Saint-Jean, ou comme le marché de Noël. Riomont a un mémorial des scouts bord pour la France. Un mémorial national. Je suis persuadé que plus tard, il y aura des milliers de scouts qui iront là-bas. Pour l'instant, bien sûr, on est en train de le faire. Ceux qui veulent verser pour les plaques, ils peuvent encore verser pour les plaques. On va faire 4 nouvelles plaques de scouts morts pour la France. Donc, c'est quelque chose de magnifique pour notre patrie, de savoir que les familles... vous avez beaucoup de familles qui sont touchées par des enfants qui sont morts, qui avaient 22, 23 ans au service du scoutisme. Et on a fait vraiment une petite chapelle pour eux. Ils peuvent venir prier pour leurs enfants qui sont morts au service de la France en pleine action.
Alors, récapitulons. Pour verser, si vous voulez donner de l'argent au village de Riomont, c'est...
Notre-Dame de Riomont.
Notre-Dame de Riomont. Si c'est pour l'église, la Sainte-Croix de Riomont. Et si c'est pour le Guerveur, scout et guide de Riomont.
Tout voilà. Simple.
Et vous envoyez votre chèque à village de Riomont.
BP 28 62 801 Liévin L-I-E-V-I-N CEDEX.
Boîte postale 28.
PP 28.
Comme 4 x 7. Parce que 4 x 7, 28, bien entendu, voilà. Vous l'aurez tous compris.
Merci Serge, en tout cas, pour votre accueil.
Merci
toujours
mon père.
Royal.
Merci d'exister, comme on dit maintenant. Bien, alors, et justement, puisque le père Arouet, je parlais à l'instant de l'épiphanie comme signe de contradiction de la laïcité, je me tourne vers l'abbé Cellier qui publie le dernier numéro de Fidélitaire qui est consacré à les catholiques dans la politique. Hein. Est-ce qu'un catholique peut faire de la politique sans se
souiller? Est-ce qu'on parle d'abord peut-être de l'Église Sainte-Thérèse rapidement?
Comme vous voulez. Hein,
et puis ensuite on parle.
J'essaie de faire une liaison
habile et intelligente.
Mais vous n'en voulez pas, parlons d'autre chose.
Comme d'habitude, je ne comprends pas les subtilités. Simplement parce que je crois qu'il faut s'appesantir sur cette question effectivement de centenaire de 1905. Donc simplement je rappelle pour mémoire pour nos auditeurs qui n'auraient pas suivi jusqu'ici, j'en ai parlé quelques fois. Donc nous avons acheté en novembre 2003 à la mairie de Compiègne une église consacrée à Sainte Thérèse, une église que nous venons de rénover entièrement et que nous rouvrons au culte samedi 15 et dimanche 16 janvier. Donc tout simplement samedi et dimanche prochain. Donc le programme de l'inauguration de la réouverture, hein, donc le samedi 15 à 16h, il y a donc un concert de chant de Noël par le chœur Saint-Michel, dont on parlera de leur petit disque dans quelques instants. Toujours le samedi, à 16h45, je raconterai l'histoire de cette église, qui est enracinée dans l'histoire de Compiègne. C'est une église relativement récente, mais qui a toute une histoire par rapport à Compiègne. Et à 17h30, le samedi, on pourra visiter l'église, y compris les parties qui ne sont pas ouvertes habituellement au public, la sacristie, l'appartement du prêtre, pour voir un petit peu comment cette église...
Est-ce que vous avez un beau chasublier?
Un magnifique chasublier, d'origine, puisque c'est une église que nous avons restaurée, mais qui reste ce qu'elle a été construite. Hein.
Ça, c'est un meuble intéressant, parce que c'est tout le... Ça montre le génie et le talent des artisans.
Voilà. Et le dimanche 10, donc ça c'est, je dirais, le samedi, nous faisons la partie plus civile, historique de l'église, etc.
Le dimanche
16 à 10h, excusez-moi, voilà. 15 à 16h, et 16 à 10h, eh bien c'est la grand-messe de reprise du culte, après environ une dizaine d'années d'interruption, hein, puisque grosso modo le culte s'est interrompu autour de 1995, et ça sera donc célébré.
Elle a été reconsacrée l'église ou elle avait...
Elle avait cessé le culte dans le sens où il n'y avait plus de pratique. Un petit peu de chapelet peut-être, mais il n'y avait plus d'activité, mais elle a jamais été consacrée à autre chose. Elle était vide, quoi. Elle était simplement vide.
Vous avez un bon maire, alors, dans le coin.
Monsieur Marigny, donc sénateur maire, effectivement, est un libéral honnête. Mmh. C'est-à-dire, c'est un libéral.
Ça s'appelle un oxymoron. Ça.
Voilà, un libéral, mais il considère qu'il voit pas. C'est pas un libéral de gauche, c'est-à-dire qu'il considère pas que libéral, ça veut dire ouvert à la gauche, mais pas aux gens qui ne sont pas de gauche. Tandis que lui, il considère que effectivement, il fera peut-être des choses pour la gauche, mais il voit pas pourquoi il ne fera pas des choses pour les catholiques.
Bien sûr qu'il va pas faire comme son collègue de Normandie qui a envoyé les gendarmes pour virer l'abbé.
Voilà, l'abbé de façon parfaitement illégale. Je comprends même pas comment l'abbé lui a pas mis un pain dans la tête.
Ah non, mais c'est extraordinaire cette histoire.
C'est n'importe quoi.
En deux mots, le curé d'un petit village normand dont le nom m'échappe, le curé en titre, donc le curé du diocèse, prête ses clés à un prêtre de la fraternité, donne les clés de son église à un prêtre de la fraternité en disant si vous voulez célébrer, eh bien voilà, vous êtes bienvenus, etc. Donc avec l'accord du curé conciliaire,
qui est donc l'affectataire, donc l'affectataire, disons le propriétaire de l'usage.
Voilà. Eh bien le père, rappelez-moi son nom.
Go.
Entre dans l'église, célèbre, commence à célébrer la messe, et à ce moment-là arrive une espèce d'échevelé de taré d'élus du peuple avec toutes ses écharpes en bataille, accompagné d'une bande de gendarmes, et tout ça manu militari, ils ont foutu tout le monde dehors, le maire disant c'est un lieu public, c'est moi qui suis le propriétaire de cette église, je ne veux pas de ces intégristes ici, etc.
C'est totalement faux.
Je trouve qu'effectivement, il aurait été bon de lui botter le train. Je lui aurais probablement donné des couleurs. Enfin, que la gendarmerie se prête à ce genre de truc, c'est vraiment, ça montre la gendarmerie, qui est vraiment le corps sacré par excellence, le gardien des carrefours et des routes.
On revient aux guerres de Vendée, où il y avait des gardes pour protéger les prêtres, et maintenant il faudra qu'il y ait des scouts pour protéger les prêtres, pour empêcher qu'on interrompe le saint sacrifice de la messe.
Vous pouvez aller en toute tranquillité à l'inauguration, il n'y a pas de problème.
Nous ne laisserons pas envahir. Voilà. Alors, mais de toute façon, le sénateur maire sera là, nous le recevrons ce jour-là.
Samedi 15 à 16h et dimanche 16 à 10h.
Donc tous les auditeurs sont invités, selon la formule consacrée, à être présents ou à s'unir par la prière.
Hein. Est-ce qu'il y aura un vin d'honneur?
Il y aura un vin d'horreur, effectivement.
Tout ce qui vous intéresse, Serge Lebecquet.
Voilà. Donc l'adresse pour y venir, c'est Église Sainte-Thérèse, 85 rue du Bataillon de France, 6200 Compiègne.
En plus,
donc Église Sainte-Thérèse, 85 rue du Bataillon de France, 6200 Compiègne. Mais bien sûr, ce grand projet qui a pris beaucoup de mon temps et de mon énergie tous ces derniers mois, parce qu'il a fallu suivre, négocier, puis acheter, puis suivre les travaux, etc. Donc c'est vraiment faire revivre une église, c'est quand même un gros travail. Autant où fleurissent les mosquées, c'est quand même une belle, à la fois un beau défi et un gros travail. Donc ça a coûté, c'est clair, un certain prix, et les factures, parce que le chantier venant de se finir, les entreprises ont le mauvais goût de penser qu'elles doivent être payées. Donc les factures, les factures arrivent. Donc que ceux qui peuvent encore, je remercie tous les auditeurs de Radio Courtoisie qui ont déjà donné pour nous soutenir, et ça vraiment c'est une grande aide, mais que ceux qui pourraient encore nous aider un petit peu ou beaucoup le fassent, et je les en remercie dès maintenant. Donc les dons sont envoyés à l'ordre de l'église Sainte-Thérèse, tout simplement, dons à l'ordre de l'église Sainte-Thérèse, soit au 85 rue du Bataillon de France, 6200 Compiègne, soit à boîte postale 40201, 6202 Compiègne. C'est la même chose, hein. Donc, au don à l'église Sainte-Thérèse, boîte postale 40201, 6202 Compiègne. Donc, c'est un peu plus en sécurité quand ça arrive à la boîte postale. Je signale, avant qu'on passe au fidélitaire, que donc, je redonne à Monsieur de Beckage, parce qu'il en a besoin d'un deuxième, un agenda. Bon, d'un agenda
2005 Clovis, qui est consacré à Saint-Louis-Marie-Grignon-de-Montfort.
Et puis donc, le Cœur Saint-Michel, que beaucoup connaissent, ont sorti un CD consacré à des Noëls populaires polyphonique qui s'appelle Noël pour l'amour de Marie. Donc j'en donne un à Monsieur de Beckett et j'en donne un à Madame Victoria qui me les a réclamés à corps et à cri. Hein, donc qui sont
Je
plaisante. Donc ceux qui
corrompus jusqu'à la mort,
voilà, ceux qui voudront venir, eh bien entendront tout simplement certains l'interprétation de certains de ces chants de Noël par le Cœur Saint-Michel. Donc le samedi à 16h, nous avons dit, donc au 85 rue du Bataillon de France, 62 Compiègne.
Alors ce numéro de fidélité, moi, il m'intéresse beaucoup parce que vous demandez de résumer la question que je me pose. Est-ce que vraiment un catholique peut faire de la politique sans péché.
Voilà. Donc effectivement, ce numéro engagement chrétien en politique,
c'est à l'occasion du centenaire de la loi de laïcité. Nous avions fait, en mars 2004, nous avions fait un numéro sur la laïcité, notamment la laïcité scolaire. Donc nous avons fait un gros dossier qui est toujours disponible. C'est le fidélitaire numéro 158 qui parlait exhaustivement de la laïcité, notamment scolaire. Et donc d'un côté négatif, en montant l'immense imposture, le mensonge, le vol, l'agression, l'injustice, la spoliation qu'a été cette loi de 1905, parce qu'il faut savoir qu'il y a des dizaines de milliers de religieux qui ont été expulsés, des bâtiments volés.
Un parc immobilier formidable qui a été volé.
Rappelons-le, avait été volé à la Révolution. Ouais. Et il y a une restitution partielle qui a été revolée en 1905. Donc faut quand même revoir.
C'est un régime de voleurs, voilà. La République, donc il faut le savoir.
Bon, donc nous avions fait ce numéro, je dirais, qu'on pourrait appeler négatif, en montrant tout le côté forban de cette laïcité. Je dirais l'imposture qu'est cette laïcité. Et nous avons voulu, maintenant que nous commençons l'année 1905, nous avons voulu montrer le côté positif. Et le côté positif, eh bien, c'est que la laïcité prétend justement exclure le catholicisme de la vie publique et de la vie politique. Et nous répondons bien au contraire, il faut que les chrétiens s'engagent chrétiennement en politique. Alors, bien entendu, ce dossier est un dossier avec beaucoup de sujets, beaucoup de collaborateurs, Monsieur Brignot, Monseigneur Bernard-Ticine Malraix, l'abbé Michel Beaumont, Rémy Fontaine, François de Pinfantagneau, Jacques Bompard, Pierre Bernard qui répondent à des questions sur leur engagement donc de maire et d'homme politique. Donc, et Monsieur l'abbé de Cacré qui fait l'éditorial. Mais l'idée, c'est, bien entendu, nous, Fraternité Saint-Pédis, nous n'avons pas l'intention de faire de la politique politicienne et de donner les consignes de vote, etc. Ce n'est pas notre rôle de prêtre. Notre rôle de prêtre est de former les âmes, de les mener sur la voie du salut éternel. C'est le rôle des laïcs chrétiens de s'engager chrétiennement en politique, avec les difficultés que cela pose, parce que la politique a une dimension de corruption, mais il faut pas non plus oublier que la vie professionnelle est aussi une vie dangereuse d'un point de vue moral à certains égards, mais en même temps très nécessaire, et que ça soit Pierre Bernard comme Jacques Bompard à qui nous avons posé la question, est-ce que les catholiques doivent s'engager en politique? Ils nous répondent, si les catholiques ne le font pas, forcément ce seront d'autres, et il faudra pas venir ensuite pleurnicher que rien ne se fait.
Ce qui t'a souligné quand même, pardon, c'est que Bompard et Pierre Bernard sont des élus dans le cadre d'un système qui a toujours existé, qui est un système politique, c'est-à-dire de gestion des affaires de la cité, qui existait dans l'Ancien Régime. Les maires, on a toujours eu des maires ou des bourgmestres ou des baillis, ou quel que soit le nom qu'on leur donne. Et d'ailleurs, Maurras, à ce niveau-là, est tout à fait... Maurras est parti. Défend l'idée de la démocratie locale comme moyen d'expression tout à fait naturel du peuple. C'est au-dessus que ça change. C'est-à-dire à partir du moment où on échappe on sort de son domaine de subsidiarité, où on prétend s'occuper des affaires du royaume alors qu'on n'est rien du tout d'autre qu'un citoyen ou un sujet local, par un autre système que le système de la lieutenance, on est en danger.
Oui, mais attention, nous n'avons jamais dit qu'est-ce qu'il faut faire en politique. C'est aux laïcs chrétiens à y réfléchir. Nous n'avons jamais dit il faut que vous soyez élu député, etc. Peut-être certains peuvent penser que c'est le bon moyen, ou se trouver dans des situations. Un homme comme Garcia Moreno, qui était vraiment un grand défenseur, il s'est trouvé dans la position où il a été élu président de la République. Et il a fait un énorme travail très positif, la République, consacré la République au Sacré-Cœur. Il n'a jamais changé. Il a d'ailleurs, à la fin de son mandat, il s'est retiré. Il avait fait élire quelqu'un dont il estimait qu'il devait continuer bien dans le travail. Ça ne s'est pas produit. On est revenu le chercher. Lui, il ne souhaitait pas spécialement être élu, ni quoi ni qu'est-ce. Donc, je crois que ce qui est important, c'est que la politique porte sur la structure de la cité. Et qu'il ne faut pas se dire, voilà, la structure de la cité est mauvaise, mais on ne s'en préoccupe pas, ça n'a pas d'importance. Parce que cette structure de la cité détruit le travail, je dirais, qu'on pourra appeler plus basique, qui est de faire vivre notre famille, de faire vivre nos écoles, etc., et qui est nécessaire, qui est le premier travail que nous devions faire. Mais si on n'estime que rien, enfin qu'il n'y a rien à faire et que c'est, soit qu'il n'y a rien à faire, c'est du désespoir, soit que c'est, je dirais, ça n'a pas d'importance et c'est de l'illusion.
Mais si on en croit les textes que Jean Madiran, enfin les articles que Jean Madiran a consacrés à ce sujet récemment,
voilà, dans présent, donc
dans présent, c'est quand même quelque chose de relativement nouveau que la fraternité prenne cette position-là. Jusqu'à présent, depuis sa naissance, on peut dire qu'elle était restée. Bon, on sait bien que les prêtres de la fraternité sont pas tous totalement désincarnés et qu'ils savent bien que la politique a une importance dans la cité et ils s'en occupent un petit peu. Mais il n'y avait pas eu encore de prise d'opposition d'un supérieur de district ou d'un supérieur général, sauf à la fondation. Je me souviens du discours fondateur du sermon de l'homélie fondatrice de Monseigneur Lefebvre, qui a pris des positions politiques très claires. C'était pas la peine de faire appel à un exégète très doué pour comprendre ce qu'il voulait dire.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, je crois là aussi qu'il faut replacer les choses à leur juste niveau. Vous êtes dans votre maison. Des loupards vous attaquent. Il est évident que vous barricadez les fenêtres très rapidement et puis vous avez la porte et vous essayez de vous défendre immédiatement. Ça, c'est ce que nous avons fait pendant 30 ans. Il y a une crise qui ravage tout. Nous essayons de faire qu'il y ait, comme j'ai dit un jour à quelqu'un qui m'expliquait qu'il fallait faire des recherches théologiques, etc., pour expliquer comment ça se passait, pourquoi il y avait une crise dans l'Église. Je lui ai dit, c'est très bien de faire des recherches théologiques, mais quand vous aurez fini vos recherches théologiques et vous viendrez les expliquer, s'il n'y a plus de chrétiens pour expliquer, ça ne sert à rien. Donc nous avons essayé de dire, il faut qu'il y ait quand même qu'il y ait encore des prêtres, encore des églises, encore des écoles catholiques. Le minimum minimorum. Bon. Et puis, petit à petit, par un travail gigantesque qu'ont fait les fidèles, les prêtres, les évêques, tout ça, un travail énorme, voilà. Eh bien, petit à petit, les bastions ont été un peu reconstruits. Maintenant, on peut se dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour aller un petit peu plus loin? Et voilà l'idée. Donc, je signale effectivement que M. Madiran a relevé en deux articles
oui,
en présent,
tout à fait
intéressant, donc le 7 janvier et le 8 janvier. Il y a d'autres articles dans ce Fidélitaire, notamment sur l'énorme construction que fait nos confrères de Suisse à Ville, une énorme église magnifique qu'ils ont construite intégralement, ça c'est je crois une belle chose, et puis un dossier de trois articles intéressants sur le cinquantenaire de la mort de Claudel.
Donc, alors le Fidélitaire on le trouve dans
le Fidélitaire, donc c'est le Fidélitaire numéro 163 de janvier 2005, on peut le commander à Fidélitaire boîte postale 88 91 152 Étampes, Fidélitaire boîte postale 88 91 152 Étampes, on peut leur téléphoner pour le commander, c'est le 01 69 78 30 23, 01 69 78 30 23, ou bien le trouver dans les bonnes librairies, notamment la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont dans le 5e arrondissement, et le numéro donc c'est à 7,50 € et l'abonnement découverte pour ceux qui voudraient s'abonner c'est à 33 €.
Merci monsieur l'abbé Cellier. Victoria, des messages.
Samedi 22 janvier, le Cercle National des Combattants et Roger Olindre organise à Neuvy-sur-Barangeon, dans le Cher, une soirée couscous royale. Repas vers 20h, il est conseillé d'arriver vers 19h. Le prix du repas, vin inclus, est de 25 €. Le logement, de 20 € par personne. Retenir dès maintenant auprès de Janine Le Sceau, à partir de 14h, téléphone 01 40 59 07 66. Chèque à l'ordre de AAS Saint-Louis. Devoir de mémoire.
L'Association des Amis du Séminaire Saint-Louis. AAS Saint-Louis, voilà.
Le 6 février 2005, il y aura 60 ans que Robert Brasillach tombait au fort de Montrouge, fusillé sur ordre du général de Gaulle et sous la pression des démocrates chrétiens, des socialistes et du parti communiste. Il allait avoir 36 ans. À cette occasion, les auto-éditions FB proposent les derniers exemplaires de « À Fresnes au temps de Robert Brasillach », octobre 44, 6 février 45, par François Brignot. Cet ouvrage se compose de trois cahiers, 224 pages au total, sur la vie quotidienne de la prison, où l'épuration enferma les nouveaux proscrits. C'est de l'histoire à bout portant, des choses vues et entendues, un témoignage par un des témoins encore vivants.
C'est Brignot quand même, hein.
C'est pas
n'importe qui.
19 € franco, auto-édition FB, 41 rue des Tenrolles, TE. 2NERO2LES 92 210 Saint-Cloud.
Dimanche 23 janvier, 212e anniversaire de la mort de Louis XVI, à 15h15, place de la Concorde, statue Rouen-Brest face à l'hôtel Crillon, messe célébrée par l'abbé Néry, avec le concours de la chorale de l'abbé Saint-Michel. À 19h, cortège au flambeau en l'honneur du roi martyr devant l'église de la Madeleine.
Merci Victoria, nous sommes au bout de cette émission. Je remercie les techniciens et Franck, bien entendu, de nous avoir accompagnés avec autant de passion. Je remercie les invités d'être venus et les auditeurs, s'il en reste, de nous avoir entendus jusqu'à présent. À la semaine prochaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95 MHz, 6. À Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 12 janvier 2005 de 18 à 21h. On différait jeudi 13.